the bubbly.
That's undisputed.
I'm better than you, and you know it.
And we are NXT.
War Games.
Salut les smarts et salut les marks, vous écoutez Catch Up, le podcast qui transpire le catch et la bonne humeur même confinée. Pour vous, toutes les semaines, même dans cette période difficile, on regarde, on résume, on analyse, on détruit en encens tous les shows de la WWE, mais pas que, on vous fait aussi les résumés de Top Chef, de la météo, de l'horoscope. Donc, trait de plaisanterie, on vous résume aussi les shows hebdomadaires de la All Elite Wrestling Dynamite, puisqu'aujourd'hui, c'est NXT versus AEW, c'est la baston du mercredi. Et pour cette semaine, comme d'habitude, en host, l'Amir Lamba au service, accompagné du truculent Luchasaurus des podcasts, Tonton Christ. Qu'est-ce que
Hola, qu'est-ce que amigo? Muy bien?
Sí. Ah, muy bien.
Arriba,
grand fan de Luchador et de Lucha Libre devant l'éternel.
Il me semble que dans cette preview, il va y avoir un Luchador qui va apparaître un moment ou un autre.
Oui.
En tout cas, salut l'amiral, salut le peuple de Ketchup. Préparez la troupe pharmacie, aujourd'hui, c'est la baston du mercredi.
Exactement, la baston du mercredi du 22 avril 2020. Petit tour comme d'hab du côté des audiences américaines. Eh bien, après deux semaines où NXT arrivait à prendre une légère tête d'avance d'une quelques milliers de mille spectateurs sur AEW, eh bien, c'est la tendance qui s'inverse, puisque cette semaine, AEW a un petit big up dans ses ratings avec 731 000 spectateurs à la télé. Contre 665 000 pour NXT. Et donc, c'est plus 7% pour AEW et moins 4% pour NXT. Voilà, donc on retourne à plus ou moins la tendance depuis le début, hein, où c'est généralement AEW qui est devant NXT. On n'est toujours pas loin, hein, ils sont à moins de 100 000 l'un de l'autre, hein, ce qui est faible. Mais voilà, petit avantage pour AEW.
C'est une vraie bagarre.
C'est une vraie bagarre. La fin, on ne saura pas qui sera KO, je pense.
Non, c'est clair et net. Hein, c'est...
Fight forever. C'est parfait. Et du coup, la semaine dernière, eh bien, c'était AEW qui avait été élu par notre éminent conseil, à savoir nous deux, le meilleur show de la semaine. Voilà. Donc, bah, comme d'habitude, hein, honneur au vainqueur, on va commencer par parler du Dynamite de cette semaine, donc du 22 avril, comme on vous l'a dit, en direct, toujours eh bien, de... D'un coin, on sait où, en Géorgie, donc le gymnase de la Nightmare Academy, hein, qui est le terme d'entraînement de Cutie Marshall.
Ouais, tout à fait.
Voilà, qui tient un peu un terrain de développement là-bas et qui fournit semaine après semaine eh bien, des extras, des jobbers, des announcement talent et aussi du public pour les shows de Dynamite. Et donc cette semaine, on commence pas dans cette salle, mais on commence en fait, eh bien petit crossover avec SmackDown. On commence dans la salle du hacker de SmackDown, hein, et on voit que c'est, my God, c'est Cody Rhodes qui est en fait le hacker de SmackDown, qui regarde des écrans et qui passe en revue, pas tag team de SmackDown, mais qui passe en revue les contenders du championnat, du tournoi qui actuellement occupe l'AEW depuis quelques semaines et pour encore quelques semaines, le tournoi pour couronner le premier TNT Champion. Donc voilà, Cody qui a plein d'écrans super high-tech, il fait un peu la revue des différents contenders de ce tournoi, il se demande où est-ce que je me place dans ce tournoi, on voit un enregistrement de Arn Anderson, avec des petites fiches, tout ça, c'est très, très mystérieux ce qui se passe. Et donc voilà, Cody Rhodes qui dit que c'est pas rien, qu'un gros network comme la TNT et Warner demande à AEW de faire un championnat à l'effigie de leur chaîne. Et voilà, et du coup, il est dans le tournoi pour montrer qu'il a ce qu'il faut pour devenir champion, puisqu'on sait qu'il ne peut pas devenir champion heavyweight, hein, AEW, puisqu'il avait fait cette stipulation-là. Donc, c'est sa seule façon d'obtenir un titre dans la fédération qu'il a aidé de monter. Donc, tout ça pour mettre effectivement de l'emphase sur ce tournoi et sa participation. Alors, bien sûr, ce n'est pas le hacker de SmackDown, hein, mais est-ce qu'on peut y voir une référence ou pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit segment d'intro un peu out of nowhere, on va dire?
On peut y voir une similarité. Hein. Moi, j'y ai pensé aussi. Direct, j'ai pensé aux hackers de SmackDown. Donc voilà, hein, je pense que là, quand même... Alors, pour le suiveur régulier, en tout cas, voilà, c'est clairement un truc comme ça. Et puis, de toute manière, il a fait des allusions, le Cody, direct, quoi, sur le fait qu'il disait que certaines personnes pensent que c'est qu'un mi-quart d'heure. Un mi-quart d'heure, hein, et voilà, quoi. Il a peur, il dit ouais, qu'il a détruit le trône parce qu'il a peur de s'asseoir dessus, quoi. Il avait Exactement. Peur de s'asseoir dessus. Donc non, écoute, je trouve que c'est bien. Il met en avant le titre du TNT Championship, ça c'est plutôt pas mal. Il fait partie des gros favoris, hein, de toute façon, depuis le début. Et j'ai trouvé plutôt intéressante cette promo.
Mmh. Ouais, moi j'ai bien aimé la réalisation, c'était plutôt bien fait, hein, bien filmé. Il y avait les effets étaient cool. Enfin voilà, il sait faire aussi, mine de rien, il s'entraîne un peu, il teste des choses du côté de l'élite sur des petits segments comme ça enregistrés. Il y a quelques trucs qui font mouche, comme celui-ci. Alors on peut se dire pourquoi, c'est quoi ce setting un peu trop high-tech, à la Minority Report, c'est un peu what the fuck, mais pourquoi pas. Il avait d'ailleurs un fauteuil de gamer avec le gros logo qu'il a tatoué sur le cou, hein, donc je sais pas, c'était un peu sympa comme... Comme setting pour le départ, du moins ça donne la couleur. Est-ce qu'effectivement il y a ce qu'il faut pour gagner et poursuivre ce championnat? Bien sûr, il n'a pas de match ce soir, hein, mais bientôt, la semaine prochaine, il aura sa demi-finale contre soit Sami Guevara, soit Darby Allin, qui s'affrontent au premier tour. Et c'est d'ailleurs le match de départ qui ouvre le show cette semaine. Et on a bien sûr aux commentaires, comme depuis deux semaines, eh bien, Tony Schiavone et Chris Jericho qui fait notre bonheur, puisque Jericho est toujours aussi excellent et tout simplement drôle. Il est juste ultra drôle, ce mec, au micro. Donc là, c'est une très bonne utilisation que de le faire speaker avec Schiavone. Donc, premier match de la soirée, Sami Guevara contre Darby Allin.
Un dream match pour toi, ça?
Ouais, un dream match dans les Young and Comer.
La semaine dernière, tu m'as dit que dans 4-5 ans, Darby Allin, Sami Guevara, ça sera un main event de pay-per-view à la AEW. Donc pour toi, match de rêve, quoi. Quart de finale du TNT Championship Tournament. Voilà, Darby Allin, Sami Guevara. On a servi l'amiral sur un plateau.
Exactement, alors pas en main event, hein, j'aurais bien mieux.
Ah non, event, là, on est encore dans
un opener.
Tu avais dit dans 4-5 ans.
C'est ça, dans 4-5
ans. Donc là, on est sur un opener de weekly. Voilà, un mercredi soir. Mais moi, j'ai pensé à toi, tu vois. Hein, j'ai pensé à toi, mon amiral. Et je me suis dit, amiral, il doit kiffer d'avoir un Darby Allin, Sami Guevara en opener de Dynamite.
Ouais, exactement. Puisque, effectivement, je voyais aussi bien l'un que l'autre pouvant l'emporter, même si j'avais un soupçon de ressenti, d'instinct pour le vainqueur du match, parce qu'il me semble effectivement tellement être over avec la foule et qui est pas là mais qui est quand même chez elle, tellement over avec ça et aussi les huiles de All Elite Wrestling, que effectivement bien après un match assez disputé avec des séquences très très dans le sanguin, hein. Les deux, ils sont très athlétiques, on les sait capables de faire des choses en termes de high spot et de gymnastique assez incroyable, mais il y a eu beaucoup de phases où ils s'envoyaient des gros coups de coude dans la bouche, et même à un moment donné où Darby Allin chope la jambe et la botte de Sami Guevara et déchire la botte, il enlève sa chaussure, lui mord le pied, bref, c'était très dans le sanguin, dans le viscéral, et c'est bien sûr Darby Allin, hein, le plus taré des deux, qui l'emportera après, donc du coup son last supper. Donc une prise de finition, il a le coffin drop qu'on connaît, mais il a aussi cette prise de finition là. Donc voilà, Darby Allin gagne son ticket pour aller affronter la semaine prochaine Cody en demi-finale, ce qui fait du coup écho à un match en tag team qu'ils ont eu il y a quelques semaines contre le Inner Circle, qu'ils ont perdu, et Darby Allin, alors que Cody était là un peu pour réconforter, eh bien Darby Allin a envoyé un gros coup dans la bouche à Cody, donc du coup il continue, il mène l'affrontement entre les deux, qui sont plus ou moins alignés, qui sont tous les deux face, hein, et qui ont les mêmes adversaires, le Inner Circle. Mais il y a cette petite brouille qui plane, sachant que il y a eu un match entre les deux qui avait été assez encensé à Full Gear, il me semble, où il y avait eu un match nul entre Cody et Darby. Donc c'est assez logique qu'on les retrouve la semaine prochaine dans la finale. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener et du coup de la perspective d'avoir un nouveau match entre Allin et Cody?
Alors, c'est bien parce que on est vraiment dans le thème de la baston, là. Parce que moi, je suis pas du tout en raccord avec toi sur plein de choses, quoi.
Ah, bien sûr.
Et voilà, tu sais déjà que je n'aime peu d'Arby Allin, vraiment très peu.
Oui.
Et que je trouve des qualités à Sammy Guevara, mais je le trouve trop green. Mais il me fait bien marrer parce qu'il est dans le cadre d'un clan. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il passe mieux auprès de moi que Darby Allin, qui est un lonesome wolf. Et voilà. Mais Darby Allin, je déteste Darby Allin dans le ring. C'est vraiment ça ne passe pas avec moi, quoi. Il y a plein de trucs avec ce gars-là, malheureusement, qui ne passent pas du tout pour l'instant. Alors je sais, j'ai entendu tes arguments, il est jeune et tout, et donc moi, en tant que vieux Luchasaurus, je lui laisse du temps, il a le droit à des années. Moi, là-dessus, d'ailleurs, je pense que je ne serais pas un vieux suiveur de catch si je n'avais pas appris avec les années et les décennies, j'ai envie de dire, à laisser la place au temps pour un catcheur, quoi. Voilà, et un catcheur ne se fait pas en 3 mois, en 1 an, en 2 ans. Non, il se fait sur une carrière de 10 piges déjà pour commencer. Et s'il est bon, il en fera 15 ou 20, quoi. Donc, Darby Allin, je veux lui laisser du crédit. C'est un jeune. Allez, la jeunesse. C'est pareil, c'est un jeune. Il vient du monde latino, donc il a, à mes yeux, il a certaines grâces. et voilà. Le match qu'ils ont livré était pas trop mal. Pas trop mal. C'était globalement pas trop mal. J'ai trouvé Allin un peu plus safe. Donc déjà, tu vois, voilà, il a déjà progressé sur un opener de weekly pour moi, à mes yeux. Voilà. Et après, du coup, t'as enchaîné avec Matt Hardy ou non, on était toujours...
Non, mais on peut en parler.
C'est vrai, on a du temps. Je ne sais pas si tu comprends mon point de vue, mais en tout cas, tu vois, je diverge de toi parce que par contre, je n'imagine pas ces gars-là main eventer un jour comme toi, tu les vois. Moi, franchement, je considère que surtout Darby Allin, à moins qu'il soit effectivement bien drivé, qu'il y ait un vieil ancien qui le prenne en main. Moi, je veux bien, si la AEW, ils ont besoin d'un producteur, d'un booker, d'un entraîneur, je veux bien y aller. Moi, je serais totalement d'accord d'aller bosser backstage dans une fédé. Même française, d'ailleurs.
Le
message est lancé.
Disais, si quelqu'un peut pusher le miracle comme étant booker à Raw, allez-y. Voilà. Bah, là, pareil, hein, si vous pouvez pusher Tonton Chris comme producteur à la All Elite ou autre chose, n'hésitez pas.
Moi, je lance même, je profite de l'antenne de Catch Up pour dire que si jamais il y a des fédés française de catch, s'il y a Rick Catch ou la PC ou je sais pas, s'ils ont besoin d'un mec dans l'Essonne, vous pouvez me trouver, peuple de catch-up, vous pouvez me trouver, parce que moi ça m'intéresse, quoi. Donc si j'aimerais aller faire le booker, aller faire le manager, aller faire j'aimerais ça, ouais. Donc voilà les amis, si vous m'entendez, déposez un petit commentaire et on en reparlera une autre fois, peut-être dans un You Talk Too Much avec l'amiral, pourquoi pas.
Eh ben peut-être, why not. À venir.
Puisque dans You Talk Too Much, on ne parle pas que du catch mainstream. On parle d'autre chose aussi. Donc, Amiral, le défi t'est lancé.
Ah bah, très bien, je relève le gant du défi
comme
il se doit.
Ouh, Amiral versus Tonton Chris.
Et un qui ne relève pas le gant comme il faut, c'est Chris Jericho. Justement, t'en parlais de Matt Hardy, il revient, hein, toujours filmé depuis son Hardy Compound, et il avait fait il y a 2 semaines une invitation à ce que Chris Jericho, le cul du trou, vienne le retrouver ici afin d'avoir un match Elite Deletion. Et Jericho, la semaine d'après, il a rien dit simplement sur l'invitation de Matt Hardy. Donc Matt Hardy, il est là, il se dit ok. C'est un peu décevant tout ça. Il a regardé le segment, le Bubbly Bunch. Pareil, Jericho l'a complètement ignoré. Le seul qui a parlé de Matt Hardy lors de Bubbly Bunch, c'est Sammy Guevara. Donc du coup, Matt Hardy dit ok, très bien. Si c'est ça, si Sammy Guevara il veut faire le sale boulot à la place de Jericho, je l'invite du coup dans mon compound pour faire le Elite Edition. Matt Hardy, après ça, il se demande pourquoi Jericho le snob l'ignore. Il se dit peut-être que Jericho il veut parler au Matt Hardy, le normal Matt Hardy, le Matt Hardy intuable qu'il connaît. Donc là, de Broken Matt, il redevient Matt Hardy, donc avec une habillé normalement, hein, tel qu'on le voit en Team Extreme, etc. Un Matt Hardy tel qu'on connaît, plus classique, qui va lui parler, lui expliquer pourquoi Matt Hardy s'est tout simplement aligné avec l'élite, parce que c'est les piliers de la Elite Wrestling, que la Elite Wrestling c'est le futur, et que Jericho tout ce qu'il veut c'est le chaos, c'est détruire ses piliers afin de pouvoir régner sur les cendres de cette nouvelle fédération de catch, et Matt Hardy ne peut pas laisser faire ça, tout simplement. Donc, un jour ou l'autre, il mettra ses mains sur Jericho et il va lui botter les fesses.
Voilà.
Ni plus ni moins.
C'est comme ça que ça se passe.
Eh ben oui, c'est comme ça que ça se passe. On revient, avant que tu aies un petit truc à dire sur Matarazzi.
Oh non, parce que écoute, bon là, ils sont lancés sur le truc de toute façon, là. Donc, si tu veux, il n'y avait pas trop de surprise d'avoir un segment de la sorte mercredi. Donc, du coup, voilà. Voilà, apparemment, ils sont partis pour le faire progresser dans la rivalité. C'est-à-dire, il va d'abord choper Guevara, et puis j'imagine qu'il va choper encore un ou deux autres de l'Inner Circle. Donc je pense que par exemple la team Santana Ortiz doit serrer les fesses parce que pour le peu que le Matt Hardy se trouve un partenaire un peu sympa, ça pourrait faire mal. Donc voilà, je relance aussi sur le truc que Jericho était au commentaire. Voilà, il est au commentaire toutes les semaines en ce moment et que ça reste un délice absolu. Just made the list.
Oh yeah.
Oh oui.
La liste du champion,
ah, oui.
La liste de Jericho, hein, ça c'est autre chose.
Cet homme restera dans l'histoire de toute façon, même s'il a, bien forci, qu'il a bien, voilà, c'est plus le même catcher qu'il y a 10, 15, 20 ans. Mais par contre, voilà, le mec a une gueule, mais il a une gueule. Même votre tonton Chris, parce que bon, quand même, tonton Chris, quand même, Chris Jericho, quoi. mais il a une gueule, ce Chris, un truc de dingue, quoi. Un truc. Il est, voilà, moi depuis, je le suis depuis son arrivée, quoi. Dans le monde du catch, quoi, et c'est un type pour qui j'ai un immense respect. Et écoute, c'est l'éclat de l'avoir au commentaire.
Ça, on est bien d'accord.
Pour ceux qui aiment les shows en version originale, parce que après, je sais qu'il y a beaucoup de l'AEW apparemment est beaucoup regardé sur Toonami sur YouTube.
Ah bon?
Ok. Et ouais, qui est commenté par Norbert Feuillant et je sais plus le nom de l'autre gars. Et donc tous les mardis ils sortent l'épisode de la AEW et ils font un commentaire enregistré sur la diffusion de l'épisode de la semaine.
Voilà. Ok, d'accord, mais
je fais de la pub aux autres, moi je suis comme ça, quoi. On reste les meilleurs, tu vois, mais bon, en toute humilité, mais on fait
c'est
de
pas la même chose. C'est effectivement la plateforme de diffusion d'AEW Dynamite en France. Ils ont 10-15 000 vues en moyenne, je regarde sur leurs épisodes, ce qui est bien,
on se rend compte dans une niche comme est la France, quoi.
Ouais.
C'est totalement respectable. D'ailleurs, peuple de catch-up, on vous lance un appel, on attend que vous soyez 15 000 aussi, hein.
Ah ouais, venez.
On vous prévient.
Hein, passons du mercredi, on vous attend. Et...
Ah ouais, 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 parce que sinon, ça va être War Games. Hein. Moi, je vous dis, on sort la cage et...
Faudrait une grande cage pour 15 000 quand même. Hein. Ça va être...
Team Catch-Up versus Peuple de Catch-Up, quoi. War Games.
Ça va être très long. Hein. S'il faut qu'il y ait les 15 000 rentrés les uns après les autres.
Mais on va avoir un booking d'exception ce jour-là.
Ouais,
on sera en overbooking absolu, quoi. Tu vois,
un toutes les minutes. Ça fait 30 000 minutes.
Ouais, voilà, on fait un truc.
Ça fait 500 heures, le match de 500 heures minimum. Hein.
Ouais,
minimum,
ouais, là on rentre dans l'histoire.
Le plus gros PPV du monde.
Ah ouais, là on rentre dans le Guinness Book, direct. Ouais. Voilà, on est comme ça, nous, à Catch-Up. On a peur de rien.
Celui qui a peur de rien non plus, c'est Alan Angels, un extra donc de la Nightmare Factory qui vient affronter ni plus ni moins l'un des meilleurs catcheurs du monde en la présence de Kenny Omega, hein, tout simplement. Ouais. Donc le mec ne perd pas son courage et va affronter pendant un peu plus de 6 minutes The Best Bot Machine, Kenny Omega, qui bien sûr, au bout d'un moment, prend son temps, il s'amuse, il prend plaisir dans le ring. Hein, petite partie. Fréquence d'offense quand même de la part d'Alan Angels jusqu'à ce que Kenny Omega dise ok c'est bon, j'ai un jeu vidéo à finir, V-Trigger, boum, au revoir, merci. Après bien sûr, hein, Snapdragon Suplex et deux V-Trigger quand même, mine de rien.
Donc voilà,
c'est pas du tout un squash match, hein, puisqu'on a 6 minutes et une partie d'offense, comme je le disais, de la part de l'adversaire du soir. Mais bon, voilà, hein, il n'a pas été inquiété tout du long.
Non.
Toi, ces matchs où tu as un catcheur qui est, on va dire, en KFEB, ultra dans la top card, qui est un des reconnus comme étant un des meilleurs, et qui affronte quelqu'un qui n'est pas de son niveau, est-ce que tu es pour le squash systématique ou est-ce que les matchs où les mecs prennent un peu leur temps, tu t'apprécies?
Bah ouais, non, bah ça me dérange pas que le jobber il ait droit à quelques phases de domination, tu vois. Alan Angels, en plus, il est déjà passé sur les weekly de Dynamite depuis le confinement, ouais. Là, il a déjà jobé. Et moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'un jobber, il ait droit à quelques minutes, quoi. Moi, les squats, ça a plutôt tendance à me saouler, sauf si c'est fait dans des conditions, voilà, bien raccord avec l'histoire et tout, et bien raccord avec le genre de monstre, quoi, tu vois. Kenny Omega, pour moi, c'est pas le genre de catcheur qui rentre dans le ring et qui plante un mec en une minute, quoi. Mmh. Kenny Omega, il a besoin d'évoluer entre les cordes, voilà, de travailler, de mettre des passes avec, avec son adversaire, qui en l'occurrence est son partenaire. Et du coup, moi, j'aime bien qu'il donne comme ça du temps d'antenne à un Allen Angels. Il s'est pas mal démerdé, même si Omega a jamais été en danger, quoi. Voilà, quoi. Mmh. Et puis ça s'est terminé en un café l'addition, et puis voilà, terminé.
Il y a un passage que j'ai bien aimé où Allen Angels du coup prend la l'espèce de nappe du ring qui oui. est généralement à l'extérieur où il y a les logos des émissions, les sponsors, et la tire vers l'intérieur. Et à un moment donné, donc Alan Angels est à l'extérieur, Kenny Omega va près des cordes pour le récupérer et le remettre dans le ring. À ce moment-là, Kenny Omega a les deux pieds sur la nappe du ring, et là Alan Angels récupère la nappe et tire d'un coup sec, comme vous savez, une ouais. nappe de table avec les assiettes et les tasses, où on l'enlève pour que rien ne tombe. Et effectivement, bah, là Kenny Omega tombe les fesses sur le sol suite à ça. Je trouve ça un peu rigolo. En plus, Jericho oui, oui. l'a encore très très bien vendu au micro. Hein. Il en a parlé, il a fait tout un truc autour. C'était bien rigolo, quoi. Donc voilà. Bon, moi aussi, je suis ouais. pas. Ça ne me dérange pas d'avoir des gens qui, censément, sont parmi les meilleurs catcheurs du monde, qui font des classiques de 1 heure contre Okada au Tokyo Dome, prendre 6 minutes pour se débarrasser d'un opposant qu'on connaît pas trop. Je sais que des personnes n'aiment pas trop ça parce que c'est pas très réaliste par rapport au kayfabe, etc. Mais bon, voilà. Moi, j'ai rien contre non plus. Je suis un peu comme toi là-dessus. Ça me choque pas, quoi.
Moi, ouais. J'ai pas de problème avec ça. Il y a des squats qui sont très bien. Voilà, il y a des storylines et des catcheurs avec qui ça passe nickel. Et puis, il y en a d'autres avec qui, même le top quart d'heure, au final, on est quand même content de le voir catcher. Donc du coup, s'il donne 6 minutes de son temps dans un weekly sous confinement, bon, moi, de toute façon, tu sais, depuis le début, hein, moi, j'ai que du respect pour les mecs. Pour les workers, hein. Pour moi, les catcheurs, depuis le début de cette histoire de coronamania, là, clairement, voilà, j'ai que du respect pour eux. Donc voilà, Omega, tu me donnes 6 minutes, et je les prends.
J'ai bien aimé une petite séquence qu'on avait déjà vue la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, juste avant ce match. C'est Taz, qui de temps en temps vient faire un commentaire, hein, qui fait un pocho sur YouTube avec Jim Ross notamment, qui fait un petit focus sur des catcheurs et sur leur technique. Et là, dans ce match, on avait une petite séquence de 30 secondes où on revoit des matchs de Kenny Omega et Taz qui va décrypter techniquement eh bien, 2 moves d'Omega, le Snapdragon Suplex et le V-Trigger, avec des arrêts sur image, des focus. Donc Taz qui nous raconte, genre, voilà, attention, là, vous voyez, il me balance d'abord son genou gauche pour prendre de l'élan et faire un mouvement, puis après le bouchon droit. Bref, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool.
Moi aussi. Parce que
ça renforce un petit peu le côté sport. C'est un peu une tradition qu'on voit dans les, au niveau du football américain, beaucoup, où ils vont pareil analyser sur les ESPN, etc. Tel quarterback, son lancer, sa balance en faisant des focus avec des interfaces un peu high-tech pour montrer son mouvement décomposé pour comprendre. Et je trouve que ça aide un peu à vendre certains moves en expliquant toujours en kayfabe pourquoi c'est un move dévastateur, pourquoi ça met KO et pourquoi tu gagnes avec. Et je trouve que c'est plutôt, s'il continue à aller vers ça, moi j'aimerais bien qu'il continue parce que ça mange pas de pain, hein, c'est 30 secondes, 1 minute maximum, et ça rajoute un peu de. Ça glorifie, ça aide à glorifier et mettre over certains moves et des décorsités. Je trouve que ça rajoute un petit côté sportif qui est pas déconnant. Moi j'aime bien ça.
Ouais, j'adhère bien ce truc-là, c'était bien foutu. C'est rapide, donc effectivement, c'est pas un truc où tu te dis. Voilà, ils peuvent en faire plein sur différents catcheurs. C'est plutôt que nous balancer toujours les sempiternelles vidéos avec des images successives du catcheur, là, t'as un truc avec une explication, une mise en abîme, j'ai envie de dire. Et effectivement, comme tu dis, ça permet aussi de rappeler aux gens que, ok, le catch, c'est fake, mais les mecs, ils mettent leur corps en jeu, body on the line, et beaucoup, 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 beaucoup de coups pris. Je vous recommande d'aller écouter Sturi dans le You Talk Too Much, en même temps, je vends ma cam, parce que Sturi, il parle de ce que c'est que de prendre un bump, de mettre un bump, de comment est déterminé un finisher, comment chaque catcher détermine son finisher, que la règle dans le business, c'est qu'il faut savoir porter son finisher à n'importe quel gabarit. Si c'est la seule manière, voilà, si tu contrôles pas ça, c'est pas la peine, faut que tu fasses un autre finisher. Et tu vois, donc voilà pourquoi ce genre de segment ouais m'intéresse.
Cool. Ensuite, on a Scorpio Sky qui nous raconte un peu sa vie, une première partie, puisqu'on aura donc du coup la suite la semaine prochaine, on imagine, où on apprend un peu plus à connaître le truculent et bondissant membre de SCU, voilà, qui nous raconte, comme pas mal de gens dans le catch ces dernières années, qu'il est fan et qu'il a toujours voulu faire ça de
sa vie. Il est taillé, lui.
Voilà, qu'il n'a jamais voulu faire rien d'autre, que sa mère lui a dit qu'il avait un truc spécial, qu'il a été blessé, qu'il a combattu la blessure, et qu'il a failli abandonner le catch, et il a dit « Ok, je laisse encore une année pour faire quelque chose de ma carrière », et c'est l'année où il s'est rapproché de Christopher Daniels et Frankie Kazarian pour former SCU suite au prochain épisode de l'histoire, la backstory de Scorpio Sky. Voilà, pareil, ce genre de petit segment pour développer un peu des personnages.
Ouais, alors on a un truc plus habituel, hein, je vais te dire.
Oui, c'est du classique.
Franchement, hein. Là, pour le coup, c'était vraiment un classique vidéo package sur un catcher, vraiment classique, mais c'est pas mal. Je disais, ouais, pendant que tu parlais, je disais, tain, il est taillé, le Scorpio Sky.
Ouais.
J'aimerais avoir un corps comme ça pour aller guincher devant les femmes, tu vois, en boîte de nuit, en disco night. Voilà, il est taillé, le Scorpio Sky. Et puis moi j'aime bien le trio là, Soka, Lens and Sored. Moi c'est un trio qui me plaît bien.
Ouais. Moi je me demande si cette vidéo c'est pas pour après le préparer à une carrière solo, un run solo.
Pas qu'il
s'embrouille avec Daniels et Kazarian pour autant, mais Scorpio Sky a franchement tous les cartes, tous les atouts pour être en solo et aller chercher des titres ou autre, hein, parce qu'il est vraiment micro, il a un bon look, il est athlétique, il est balèze, enfin
il est bon dans le ring, c'est vrai qu'il a toutes les cartes, t'as raison,
voilà.
C'est lui qui a la main.
C'est clair.
Quel âge il a ? Je sais pas quel âge il a, Scorpio Sky.
Scorpio Sky, je sais pas du tout.
C'est un gars qui doit avoir 35 ans, ça.
Ouais, max, je dirais peut-être même qu'il est plus jeune que ça. Hein.
Oui, dans
Internet. Ah, non, il a 37 ans.
Ah, tu vois, j'ai l'œil quand même.
Ouais, pas mal. Suite à ça, on a une petite vidéo qui nous montre des extraits teasers du BT Being the Elite numéro 200. Pour ceux qui auraient vécu dans une caverne ces 4 dernières années, BT, Being the Elite, c'est du coup le show YouTube des Young Bucks, des frères Jackson, qui a largement contribué à avoir un All Elite Wrestling, puisque c'est à base un blog vidéo qu'ils ont fait. Ils ont commencé il y a 4 ans et régulièrement il y avait Kenny Omega dedans, Hangman Page, Cody qui les a rejoints, Adam Cole à l'époque où il était Bullet Club, puis aussi du coup notre anglais, le vilain Marty Scurll. Et donc du coup, mine de rien, 200 épisodes plus tard, ça fait 200 semaines qui font ce show, et là ils avaient fait, puis s'approchaient du numéro 200 qui est forcément un chiffre emblématique, ils avaient fait plusieurs numéros là en 2 semaines. Ils ont produit, j'ai regardé, 2 heures de contenu sur YouTube entre le 198 et les 3 parties du 199 et le 200, 2 heures de contenu où notamment il y a beaucoup de cash, puisqu'ils font ils font des matchs qu'ils ont filmés avec notamment SCU et d'autres personnes de Dynamite dans la résidence de Nick Jackson, qui a un ring qui est pour info l'ancien ring de la PGW, donc Pro Wrestling Guerrilla, une fédération de Los Angeles qu'ils ont racheté quand elle a vendu son matériel. Ils ont racheté le ring pour l'installer chez eux, puisque ils ont fait leurs armes là-bas, donc par sentimentalisme. Donc ils ont organisé un petit tournoi BT, et la finale c'est dans cet épisode là et c'est ni plus ni moins que Matt Jackson contre Nick Jackson, les deux frères, et tout l'enjeu c'est savoir est-ce que Nick est rétabli complètement, est-ce qu'il est à 100% après l'attaque vicieuse qu'il a subie aux mains visiblement de Inner Circle. Et donc voilà, on a vu un petit montage avec quelques spots de cet épisode que je regardais plutôt dans la journée, et c'était un truc assez cool. Si vous aimez les Young Bucks, regardez. Si vous êtes fan du Backyard Wrestling, regardez, c'est un gros hommage au Backyard Wrestling qui est là où ont commencé les Young Bucks à filmer dans leur jardin. Et si vous voulez voir ce que c'est du Backyard Wrestling, regardez aussi, c'est vraiment très cool. Il y a des spots un peu hallucinant, il y a un Canadian Destroyer qui est donné à partir d'un plongeoir qui finit dans une piscine, avec l'arbitre qui plonge dans la piscine pour compter dans la piscine, faire le tomber. Il y a des trucs de fou, vraiment, c'est des spots comme les Young Bucks savent bien faire. Dans une maison, ils se battent absolument partout. Il y a de la magie impliquée, c'est C'est à voir si ça vous intéresse. Moi, je regardais, c'est très cool. Et je trouvais ça cool qu'ils aient montré, quand ils en aient fait la promo durant Dynamite. On pouvait se poser la question, pourquoi ne pas diffuser le match dans Dynamite? Je pense qu'il y a aussi une question de qualité de footage. Hein. TNT, ils veulent quand même un produit qui est propre et qui a des, qui est broadcast en termes de qualité et qui peut être diffusable à la téloche. Là, Being the Elite, c'est filmé avec 4-5 téléphones ou appareils photo de type Canon Reflex. Donc, du coup, ça n'a pas non plus la qualité de ce qu'on peut diffuser à la télé. Mais dans tous les cas, en termes de catch, fun et back-end racing, comme je disais, c'est à voir, franchement. Ouais. T'as regardé toi ou pas, non? BT, tu...
Alors, moi j'ai... Ouais, non, j'ai jamais regardé Being the Elite. Quoi. J'ai jamais regardé. Donc, du coup, mais si tu veux... Bah voilà, du coup ils font la promo dans le weekly, donc on voit un petit peu à quoi ça ressemble, etc. Et voilà, à chaque fois on a droit à des segments effectivement chez les Young Bucks. Bon, moi j'aime plutôt bien les Young Bucks, tu vois quoi, donc ça m'intéresse de voir ce que vont les Young Bucks à côté quoi. Ouais. Là, j'ai pas le temps très franchement de regarder Being the Elite. Voilà,
ah bah je comprends.
Je regarde déjà tellement quand même, je me fais des heures de catch déjà, donc si tu veux, si je commence à me mettre à regarder les dark épisodes de chaque truc et tout. Je vais quand même voir les documentaires de la WWE parfois quoi, tu vois, genre oui. Chronicle 24, tu vois, voilà, quand même je sacrifie du temps aussi là-dessus quoi. Donc non, la passion du catch est dévorante.
Sacrifice temps.
Voilà, Being the Elite, ça fait partie des choses dans le catch que je ne regarde pas.
Très bien. Eh bien, on retourne dans le ring de Dynamite, puisqu'on a donc un match qui a été monté la semaine dernière. On a Freshly Squeeze Orange Cassidy avec bien sûr ses meilleurs amis, les Best Friends, contre Jimmy Havoc, hein, suite logique de la semaine dernière, ce qui s'est passé. Donc un match de confrontation de style, hein, entre un Jimmy Havoc très vicieux, très dans la torture, le hardcore wrestling, l'extreme wrestling, contre bien Orange Cassidy, the king of the slow style, le roi de la paresse. Donc un choc des genres, donc un match avec forcément du overbooking, hein, puisqu'on va avoir des interventions de Penelope Ford, des Best Friends, Kip Sabian. Tout ça crée bien sûr à la fin une grosse confusion qui va bénéficier à Orange Cassidy, qui gagne pour la première fois un match à Dynamite, hein, donc c'était son premier match à Dynamite, hein, puisque l'ancien, ça avait été lors de Revolution en pay-per-view, qu'il avait perdu contre Pac, évidemment. Mais là, il gagne contre Jimmy Havoc. Notamment, il y avait un passage qui était rigolo où Jimmy Havoc prend Cassidy et à l'extérieur et le dépose comme on fait généralement sur les cordes, hein, qui vient un peu sonner les roustons, mais là sur la barricade de sécurité. Et Chris Jericho, toujours impérial, le champion au micro, dira ben voilà, Jimmy Havoc, il vous explique pourquoi on met toujours des barrières de sécurité même dans une salle sans public. C'est pour pouvoir s'en servir comme arbre et péter les roustons de ses adversaires. Bravo, monsieur Jericho. C'est une analyse très fine comme on les aime. Donc voilà, victoire de Orange Cassidy. Mais bien sûr, ça va être le gros bordel. Et un peu plus tard, on va avoir un interview des Best Friends qui seront là avec Orange Cassidy en backstage. Les Best Friends qui seront énervés. Hein. On aura un Chucky T super vénère qui mettra les chaînes autour du cou. On aura un Trent qui dira des trucs un peu sombres, mais avec une mine sans expression. Et Orange Cassidy qui dit rien. Et Trent qui dit « Est-ce que j'ai envie de combattre Penelope Ford ?» Mais bien sûr que oui. Mais légalement, je peux pas. Donc du coup, je vais me taper son petit copain. Je vais tabasser son petit copain pour la peine. Et on va aussi se battre contre Jimmy Havoc, hein, pour une raison quelconque. Donc voilà, semaine prochaine, les Best Friends contre Jimmy Havoc et Kip Sabian. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match, la première victoire de Orange Cassidy?
Ouais, de ce
programme-là.
Ouais, je suis partagé quoi. Parce que déjà Jimmy Havoc m'intéresse pas. Voilà, Kip Sabian ne m'intéresse pas non plus. Penelope Ford m'intéresse beaucoup pour plein de raisons.
Okay.
J'étudie grandement sa carrière. et Orange Cassidy, je le trouve rigolo. Voilà, mais je suis pas en admiration devant Orange Cassidy, quoi. Je le trouve juste rigolo. Par exemple, je trouve à la fois bizarre et à la fois hilarant son lazy splash.
Okay.
Voilà, c'est parce que j'ai quand même, tu vois, les prises de nos chers catcheurs, même à la IW, je vous surveille les gars, j'ai les yeux partout. Et voilà, et du coup, Cassidy dans son un truc que je trouve drôle avec lui, par exemple, c'est alors en même temps on vous fait du play by play peuple de catch-up, mais par exemple il se met face à son adversaire, il est plus ou moins chancelant, tout baissé et tout ça, tout contorsionné. L'autre il est bien haut devant lui et il met ces espèces de claques au ralenti, quoi. Et normalement ben ce genre de truc ça marche super bien quand il y a du public, parce que là tout le public fait ouais et voilà, et c'est mais là tu vois, parce que voilà on n'est pas, on n'a pas encore abordé le fameux sujet du Coronamania, mais voilà, comme d'habitude dans chaque review, mais voilà, l'absence de public dans ce genre de match sur moi, c'est terrible. J'aime déjà pas un Jimmy Havoc à la base, donc si Orange Cassidy il est utilisé de cette manière là et qu'il fait ça, moi sans le public, je freine des cas de fer et je sors du match.
Je comprends.
Et je suis sorti du match. On était à Raw. Allez écouter la dernière review de Raw, les amis. Et on était ensemble à Raw et je te l'avais dit, hein, déjà. Quoi.
Ouais,
moi, les matchs, là, tu vois tout ce qu'on a parlé depuis le début et on prend notre temps. Mais tous les matchs, à chaque fois, sont la victime hein, de cette absence de public.
Ouais.
Et moi aussi, je me perds.
Eh ben moi, j'avoue que je suis plutôt content de voir cette rivalité entre les best friends, Cassidy, Kip Sabian, Penelope Ford et Jimmy Havoc.
C'est de la mid-card.
C'est de la mid-card et je trouve que ça passe bien. Et vraiment, j'ai bien kiffé l'interview des best friends à la fin, et notamment le jeu de Trent qui est là. Il dit ouais, est-ce que j'ai envie de combattre Penelope Ford, et on s'attend à ce qu'ils disent non. Il fait mais oui, bien sûr, j'ai envie de la combattre.
C'était marrant.
Mais légalement, non. Eh ben je sais pas, je trouve qu'il y a une énergie un peu légère, un peu sympa, et surtout dans le ring, mine de rien, il peut y avoir des trucs pas trop mauvais avec ces gars-là. Donc, moi, voilà, ça me. Je trouve que c'est de la mid-card plutôt cool qu'on nous sert en période de disette. Moi, je suis pas bégueule. Je prends.
Mais je comprends ton avis, quoi. C'est de la mid-card, et là, tu as choisi de voir le problème d'un point de vue collectif, en fait, alors que moi, je vois le problème d'un point de vue individuel.
Ouais.
Moi, c'est parce qu'il y a tel catcheur et tel catcheur dans cette rivalité que ça passe pas avec moi et que ça me fait sortir du match, tu vois. Alors que toi, effectivement, tu englobes le fait, et effectivement, bah, c'est de la mid-card, et que c'est très bien qu'un programme comme Dynamite ait sa mid-card, tu vois, qu'il y ait du temps d'antenne. On parlait du jobber à la Ninjas tout à l'heure, bah voilà, et bah là, c'est pareil pour la mid-card, tu vois. Je suis conscient qu'il y a besoin de cette catégorie de catcheur au sein d'un show.
Bah, il faut ça, parce qu'en plus, niveau top card, on a des gens qui sont pas là, hein, notamment.
Oui, en plus,
nouvelle MJF.
Ouais.
Hein, le gros heel de la fédération, qui a un peu tétanisé tout le monde sur Twitter en faisant des annonces assez dramatiques, en disant qu'il voudrait revenir catcher pour distraire les foules dans cette période de disette et de Coronamania. Mais malheureusement, il a une très mauvaise nouvelle. Quelque chose est arrivé et ça s'empire et s'empire. Il va certainement avoir besoin d'une chirurgie. Et donc, là, on a une vidéo filmée devant son manoir, MJF, qui a l'air grave, qui a deux doigts de pleurer, qui nous dit voilà. Lorsqu'il y a quelques semaines, j'étais à Dynamite et qu'on pariait avec Sean Spears et qu'on balançait nos billets, je me suis fait mal, je me suis fait une blessure à l'ongle. Et comme je suis un professionnel, bah, du coup, j'ai continué à balancer des billets malgré la blessure, sauf qu'elle s'est aggravée. Et là, on voit la caméra qui recule, qui dézoome, et on voit qu'MJF, il a le bras en écharpe. Il fait voilà, j'ai ma blessure à l'ongle est trop grave, je ne sais pas quand je vais pouvoir revenir, mais dès que je serai guéri, je reviendrai pour capturer la ceinture de champion de la All Elite Wrestling. Voilà, c'est triste.
Tel le phénix qui renaît de ses cendres.
Ouais, tel le phénix. Alors, est-ce que tu étais aussi dévasté que moi de cette nouvelle?
Je savais. Donc, mon pauvre Miral,
c'est la goutte de trop, MJF. Oh, son ongle.
Ouais. Ah non, mais non, son ongle, ouais, sérieux, quoi.
Parce qu'il est meilleur que tout le monde, et on le sait.
Mais ouais, c'est pas possible, quoi. Et écoute, en plus, ce qui était intéressant dans ce paquet de vidéos, donc je savais que MJF était gravement blessé et que là, de toute façon, c'était une interruption longue pour lui. Mais par contre, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il termine justement par le fait qu'il va renaître de ses cendres et qu'il va remporter le titre, donc ça veut dire qu'il se met dans la title suprême direct.
C'était déjà un peu le cas, mais par contre, sa blessure, peut-être que c'est rien. Hein. Enfin, moi, je pense qu'il est pas blessé.
Peut-être que c'est un work.
Ils disent qu'il est blessé à l'ongle, le mec.
Ouais, mais je sais pas, dans les reports, ils disent qu'il va avoir une chirurgie et tout, quoi.
Oui, mais ça, c'est parce que lui, il a annoncé sur Twitter. Je pense que c'est un work.
Ouais. Mais c'était aussi. T'as raison, c'est certainement un work. Hein.
Soit il est vraiment blessé et il s'est dit, OK, je veux pas qu'on me prenne en pitié et que je perde ma hit parce que je suis blessé, parce que généralement, c'est ce qu'on fait, typiquement, Thomas. Tommaso Ciampa à NXT, c'est exactement le cas. Gros heel, super hit, il est blessé, ben, les gens le prennent en pitié. Peut-être que lui, ben, il dit non, je veux pas qu'on me prenne en pitié, donc je vais faire croire qu'en fait que c'est une connerie, que je suis pas vraiment blessé, c'est une blessure à l'ongle, et que je boude le show pendant Corona Mania, et que voilà. Donc soit c'est le premier cas, soit c'est juste un work de A à Z, juste pour nous faire croire, nous faire avaler des vessies, des lanternes.
Ou soit c'est aussi tout simplement une question de gestion du temps. D'ailleurs, peut-être qu'ils se sont dit que MJF, voilà, avec on est en plein confinement, peut-être qu'ils ont décidé de mettre en quarantaine certains catcheurs, etc. Peut-être que c'était son tour. MJF, je sais qu'il y a des systèmes de où on fait tourner les catcheurs, etc. Par, tu vois, par exemple en Indie, de cette manière-là. Et donc peut-être qu'on a et on a explicité cette storyline pour MJF pour le mettre un peu loin, tout en le gardant quand même au show pour la title picture. Et peut-être que ça se trouve, il est prévu de revenir que dans un mois ou dans deux mois, ou alors il est peut-être prévu de revenir à, au déconfinement, au moment où il y aura à nouveau du public dans les dans les dans les arénas. Et faites un jour.
Ça arrivera, ça arrivera.
Je pleure comme l'amiral tout à l'heure. Ah ouais, faites que le public revienne dans les arénas, s'il vous plaît. J'en peux plus. J'en peux plus. Je craque aujourd'hui.
MJF, il est pas là, mais par contre, son homme de main, This is War, Wardlow, il est là. Et on en parlait de vrai squash. Et bien, c'est un vrai squash. En à peine plus de deux minutes, Wardlow va détruire Lee Johnson. Voilà. Wardlow, qui était. Ultra dominant sur ce match, hein, qui a fait des overhead suplex en envoyant le mec d'un bout du ring à l'autre et en finissant avec un espèce de un gros F5 twisté.
Un F10.
Pour toi, ça Brock Lesnar. Donc voilà, victoire de Wardlow, très 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 dominante. Voilà un gros squash. Et ben voilà.
Vous voyez, peuple de catch-up, comment on est cohérent chez nous. Voilà, on parlait tout à l'heure du jobber, du squash, du match de 6 minutes, etc. Ben voilà, là, on est dans l'exemple typique d'un match squash qui est parfait. Voilà.
Sachant qu'on va en avoir un second juste derrière, puisque c'est Brody Lee contre Justino. Justino, qui était le mec qui a failli se faire tuer la semaine dernière par Lance Archer, qui l'a passé encore plus proche de la mort contre Brody Lee.
Ah, mais donc, pareil, un match... Ils font vraiment un métier dangereux. Hein. Ils font
lui, le mec, Justino, en deux semaines... Il s'est fait 2 minutes et 2 minutes de cash. 4 minutes, c'est pas long, 4 minutes. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a morflé dans ces 4 minutes?
Oh là là, bonne mère.
Un truc de ouf.
Oh là là.
Sachant que juste avant le match de Brody Lee, on a un segment vidéo, comme on a l'habitude, de Brody Lee, qui... on voit hein, quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui regarde un article, qui nous parle d'un footballeur américain qui a été blessé, qui avait une carrière de folie à l'université, et qui est blessé, et qui du coup, sa carrière est foutue. En même temps, ce mec-là, qui est dans l'ombre, écoute un message, et c'est celui de sa petite copine qui, en gros, le plaque. Hein. Et suite à ça, le gars, il va sur le site Dark Order, Join Dark Order, aidez-moi, il écrit, j'avais le monde dans mes mains, et il s'est effondré. Référence à Bray Wyatt. Hein.
Ouais, un peu, ouais.
He's got the whole world in his hands. Et le monde s'est effondré, aidez-moi. Et là, c'est Brody Lee qui reçoit cette personne-là, qui lui dit...
Eric Rowan.
C'est ça. Tu as fait du collège du football à l'université. Oui. Tu mesures combien? Il est très grand, il est très gros. Bah, très bien. On va t'aider. Chez nous, on est des gagnants. Je connais ta frustration. On est les lions de la Elite Wrestling. Il lui lance un masque, il lui donne un masque. Et on apprendra que cette personne-là rejoint Dark Order et Elite Wrestling. Ce sera le numéro 10 de Dark Order, hein, donc quelqu'un qui sera masqué au numéro 10. Et j'ai plus son nom, mais c'est un catcheur indépendant qui avait déjà fait du job chez NXT, du job chez Elite Wrestling. J'ai plus son nom, mais c'est pas quelqu'un de très 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 connu non plus. Voilà, donc qui rejoint le Dark Order, qui va devenir peut-être le leader des numéros, hein, puisqu'on avait quelques semaines, numéro 8 et numéro 9 Dark Order, bah lui c'est numéro 10. Voilà. Donc à la fin du match aussi de Brody Lee, chose notable, eh bien, dans le public, entre guillemets, il y avait Marco Stunt qui défiait du regard et de ses invectives Brody Lee à la fin du match.
Brody Lee qui
s'approche de Marco Stunt.
Marco Stunt
qui fait un peu son Yorkshire. Et on nous annonce semaine prochaine Brody Lee contre Marco Stunt. La question, cher Tonton Cruz, la vraie question, c'est est-ce que Brody Lee va tenter de tuer Marco Stunt ou est-ce qu'il va tenter de le recruter dans Dark Order?
Va-t-on avoir un meurtre en direct mercredi prochain? Les amis, branchez-vous sur Catch Up et sur la baston du mercredi. Non, mais là, tu dis respect, c'est égal à un Justin Lowe, Marco Stone, t'es tout.
Marco Stone qui a failli se faire tuer contre Lance Archer il y a quelques semaines. Hein.
Mais ouais, ouais, le mec.
C'est la double peine. Match contre Lance Archer, match contre Brody Lee. On peut rajouter une triple peine, c'est match contre Wardlow aussi dans la filet. Et là,
là, tu prends une discus clothesline, un F10, et puis voilà, destruction générale de Lance Archer, et puis t'as compris dans quel état tu rentres chez ta mère. Ouais. Oh là, mais ouais, non, mais ces mecs, non, mais respect à ces mecs, hein, d'aller se mettre dans le ring face à des colosses pareils et se faire déboîter comme ils se font déboîter, quoi. C'est quand même waouh. Marco Stone, si tu veux, moi, quand Brody Lee il est descendu, je me suis dit non, mais Marco, t'es fou, quoi. Arrête tout. Va te confiner, va en quarantaine tout de suite, espèce de sale gosse.
Ouais. Bah, ceux qui sont en quarantaine, c'est une partie du cast du Inner Circle, hein, puisque effectivement, on a Jake Hager, les ex-LAX et Sammy Guevara et Jericho qui sont depuis chez eux, qui reviennent avec le Bubbly Bunch, hein, comme la semaine dernière, en leur espèce de segment What Up, où ils s'appellent en vidéo. Et là, cette semaine, il y a Sammy Guevara qui est triste parce que du coup, il a perdu contre Darby Allin et Jake Hager n'a pas réussi à gagner le titre, donc il est tout triste, donc tout le monde essaie un peu de le soutenir et de lui faire changer d'humeur, le faire rigoler, parce qu'un mec sexy, c'est pas beau quand il est triste, donc voilà. Et Jericho décide de faire un Flim Flam Dance Challenge, donc c'est une parodie des danses TikTok, hein, qu'un truc qui buzz en ce moment. Et chacun, ils font un challenge de danse comme ça. Celui qui gagne, eh bien, gagne une petite bouteille de désinfectant pour les mains. Alors, Sammy, j'en suis. Et puis, Sammy Guevara, il en fait un peu trop. Hein. Il fait des flips, il fait des grands écarts, tout ça. Jericho, il fait, c'est bon, pas la peine de te la raconter. Amuse-toi bien avec ta bouteille désinfectant. Et ça coupe là. Et ils ont annoncé sur Twitter que le Bubbly Bunch challenge tous les fans de All Elite Wrestling à faire des Flim Flam Dance Challenge. Ma foi, pourquoi pas. Moi, je suis pas très fan de tous ces challenges, réseaux sociaux, machin, vidéo TikTok. Meilleurs. Bon, voilà.
Je ne regarde pas ce genre de truc non plus.
Moi non plus. Donc j'étais assez insensible à ce qu'on nous a montré là. Mais
autant la semaine dernière, là, ça m'avait fait rigoler parce que sur le contexte du confinement, tout ça, et surtout surtout ce qui m'avait fait beaucoup rigoler la semaine dernière, c'était Chris Jericho. Là, Chris Jericho, il était moins dans un truc. Il a fait sa petite dance et tout ça, quoi. Ça mangeait pas de pain, si tu veux, quoi. Mais bon, c'est moi non plus, je suis pas client de ce genre de truc. Je suis pas du tout ce genre de réseaux sociaux, donc c'est vraiment un truc qui me laisse, je regarde ça d'un œil, si tu veux, en général, je me fais couler un café pendant ce temps-là, ou je fais un autre truc. Et je regarde si jamais il y a un ou deux trucs qui me font un peu sourire, quoi. Mais je ne suis pas non plus client, là. Il nous faudrait de la jeunesse, là, pour nous expliquer pourquoi une vidéo TikTok fait kiffer la life.
C'est ça, nous on n'est pas trop jeunesse, on est plutôt vieillesse avec Tonton Chris, et en parlant de vieillesse, eh bien, c'est Dustin Rhodes, hein, on a une vidéo où Cody écoute un message vocal que lui a laissé son frangin un peu plus tôt dans la semaine, et donc du coup Dustin qui affronte Kip Sabian.
Il est en mode Captain Lexom, il a un peu Dustin.
Ah, complètement, il dit, écoute, moi Kip Sabian, c'est pas de la blague, ce mec il a du talent, voilà, pour moi, à mon âge, gagner ce tournoi, c'est le plus gros truc de ma carrière après le match qu'on a eu, toi et moi, donc avec son frère Cody en pay-per-view il y a quelques temps all-out. Donc voilà, là, c'est important pour moi. Si je n'arrive pas à battre Kip Sabian et avancer dans le tournoi, eh bien, du coup, je pense que ce sera mon dernier match. Et on a Cody qui écoute tout ça en réagissant, hein, de ses expressions, qui était très bien géré, hein, Cody qui est très bon en acting. Donc voilà, il y a un challenge pour ce match, au-delà d'avancer dans le tournoi TNT Champion, c'est est-ce que ce sera le dernier match du Natural Dustin Rhodes. Et donc du coup, un match à gros enjeu, où on a d'un côté Dustin Rhodes qui débarque avec Brandi Rhodes et Kip Sabian avec Penelope Ford. Et donc on a un match de 14 minutes où on se demande est-ce que c'est la dernière fois qu'on va voir Dustin Rhodes catché. Bien sûr, sur la fin de l'intervention, il y en a un petit peu. Penelope Ford, quand l'arbitre est distrait, décide de monter dans le ring. Mais heureusement, il y a Brandi Rhodes, la belle-sœur de Dustin qui veille au grain, qui monte aussi dans le ring, nettoie Penelope Ford avec un spear. Et ça crée la petite distraction sur Kip Sabian qui permet à Dustin Rhodes de passer son code red et qui gagne le match. Dustin Rhodes donc gagne le match, avance dans le tournoi. C'était le main event du show. Et donc la semaine prochaine, on aura Dustin Rhodes contre Lance Archer. Donc on va assister au meurtre de Dustin Rhodes.
Au démembrement.
Démembrement, ouais. Et du coup, voilà. Est-ce qu'on ne s'avance pas, mon cher tonton Chris, à un scénario à la Rocky, complètement, où on a, c'est Rocky 3, je crois, où Rocky voit donc Apollo Creed se faire presque tuer dans le ring.
Ouais, bah, pas presque, complètement se faire tuer.
Se fait vraiment tuer d'ailleurs.
Littéralement
tué par Mr. T ou par le russe.
Non, par Ivan Drago.
Ivan Drago. Est-ce qu'on va pas voir la même chose? Est-ce que Lance Archer ne va pas tuer métaphoriquement parlant Dustin Rhodes?
Ouais,
et
ouais.
Du coup, la finale, ça sera contre Cody qui devra venger son frère. Plus du titre. Est-ce que c'est pas le scénario vers lequel on s'avance? Est-ce que c'est pas le truc le plus dramatique qu'on peut avoir, le truc le plus intéressant? Bref, est-ce que tu kiffes les storylines qui sont autour de ce championnat TNT que moi vraiment j'apprécie semaine après semaine? Je trouve qu'ils font des trucs plutôt cool. Tu rejoins mon avis ou t'es un peu plus sceptique?
Belle analyse, Matelot, belle analyse. Mais je suis peut-être un petit chouille plus sceptique, mais encore une fois, moi, c'est toujours mon souci, c'est que moi, c'est lié à la présence de tel ou tel catcheur dans la storyline. Et que sur le coup, sur ce match-là précisément, sur ce main event, quoi, ça, revoir Kip Sabian une deuxième fois dans la soirée, ça m'emballait pas plus que ça en main event. Ouais. En main event, j'aurais voulu un peu plus de cam, un peu plus. Voilà, une autre cam en main event, j'aurais voulu avoir. Tu vois, Dustin Rhodes, Kip Sabian, j'en aurais bien parlé si le match il avait été en mid-card.
Ouais, mais le match en lui-même, je n'ai pas trouvé intéressant. C'est vraiment plus la storyline où prépare pour la suite, en fait, en termes d'affrontement avec Lance Archer et depuis le début, veut attirer l'attention de Cody, de César. Et donc là, quelle meilleure option que de démembrer son vieux frère. Tu vas me regarder maintenant, tu vas me prendre au sérieux et tu ne vas rien pouvoir faire, mais je vais péter la gueule à ton frère, un truc de ouf, quoi.
Ouais, non, mais ça justifie pleinement, non, mais c'est clair, hein. Et puis voilà, c'est du coup, c'est une belle affiche de demi-finale, ça, Lance Archer, Dustin Rhodes, parce que clairement, oui, voilà, ça va être un tel massacre que effectivement, c'était bien joué en termes de booking et tout. Si tu veux, ce que je te dis là, hein, c'est pas lié, c'est plus lié au fait que c'était en main event.
Ouais.
Voilà, et que moi, c'est quelque chose que si j'avais écrit le show, j'aurais mis ce match-là en milieu de carte, et pas en main event. En main event, j'aurais voulu avoir une autre cam. Voilà. Et j'ai pas été très content, moi, du main event à cause de ça.
Je suis assez d'accord.
Parce que quelque part, tu vois, et ben le show s'est terminé, je me suis dit, ah ben c'est fini.
Ouais.
Ah merde, il n'y a pas un autre truc. Parce que c'était finalement un quart de finale de TNT Championship Tournament. On aurait pu avoir de la top card dans le main event du Weekly Dynamite. Voilà. Puisqu'on continue le délire des shows à huis clos, et bah, allons jusqu'au bout, quoi. Mettons quelques top carders quand même au main event de temps en temps.
Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que le match en lui-même ne méritait pas d'être en main event. Par contre, à partir du moment où ils disent il y a la carrière de Dustin Rhodes en jeu, ça justifie qu'ils soient en main event. Parce que du coup, si c'est en main event, tu dis ça peut-être arriver. Et ça peut, le show peut se clore sur Dustin Rhodes qui raccroche ses bottes de catcher, en fait.
Ouais,
Si tu le mets en milieu de carte, tu sais qu'il va gagner. Tu le sais. Si c'est en milieu de carte et que c'est pas en main event, tu sais qu'il va gagner.
Parce que là, tu savais pas qu'il allait gagner. Là.
Bah, moi, si, bien sûr, je me disais, oui, je pense qu'il va gagner. Ça sera plus intéressant en termes de storyline de le mettre contre les chercheurs. Mais tu te dis, il y a un doute, quoi. Il y a un doute.
Ah, moi, j'ai jamais eu de doute. Alors, jamais une seule seconde. Tu vois, c'était voilà.
Il n'a aucun doute.
Dustin Rhodes n'allait pas se retirer sur un match face à Kip Sabian. Quoi. C'était pas possible.
Il décide une opération, on sait rien.
On verra après s'il en reparle sur Lance Archer, s'il met en jeu sa carrière contre Lance Archer. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va décider au niveau de la stipulation.
Il met déjà en jeu sa vie contre Lance Archer. Donc,
qu'il met sa vie. Il met le truc le plus important dans la balance. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et puis après, sinon, jolie interaction entre les filles, parce que Brandi Rose, pour une fois, qui a réussi un move correctement, elle a fait un beau spear. Mais bien vendu par Pénélope. Mais bon, pour une fois que Brandi Rhodes réussit quelque chose techniquement dans le ring, c'était pas mal. Voilà. Voilà pour la AEW, on s'est bien fait plaisir.
Il y avait plein de segments, il y avait plein de trucs, hein, des segments backstage, des vidéos, des trucs, des machins, programme chargé, pareil, du côté NXT, pas mal de choses cette semaine. Les deux shows étaient bien, full pack comme on dit, donc passons du côté de Orlando, Floride.
La branche noire est...
We are NXT. We are Balor. Ben non, Balor qui devait affronter dans le main event ce soir The Velvet in Dream. On a de suite une vidéo qui se passe backstage avec la loge de Balor visiblement qui était mise à sac sans dessus dessous. Des arbitres qui sont là en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas un Finn Balor, un prince à l'horizon. Donc on nous annonce qu'a priori, ben, le main event est compromis.
Bah ouais.
Voilà, hein. Puisque Balor est introuvable. Est-ce que c'est Balor qui joue un jeu pervers d'esprit contre Velvet in Dream ou pas? On ne sait pas. Donc voilà, bah, du coup, Velvet in Dream, il débarque. Il refait un peu l'intro de Balor quand il est sur le poteau, faisant une espèce de hola avec une veste en cuir. Il commence à parler, mais la musique de la Undisputed Era retentit. Et pour la première fois depuis des semaines, on voit au Performance Center eh bien, le champion Adam Cole qui a décidé de déserter sa piscine. Il a enfin fini son brosage. Donc voilà, il débarque et s'adresse directement au Dream en disant « Ok, je vois ce que tu essaies de faire. Un match entre Balor et toi, censément, eh bien, le vainqueur, on pourrait imaginer qu'il ait droit à un title shot contre mon titre. C'est malin. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. T'auras jamais un title shot pour mon titre. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec Balor, mais je sais exactement ce qui va t'arriver. » Et là, bien sûr, ben Bobby Fish et Roderick Strong surgissent et attaquent à deux The Velvet in Dream. Cole se joint pour faire un passage en tabac en bonne et due forme, mais arrive le gigantesque, le sans limite Keith Lee, champion nord-américain, qui nettoie littéralement le ring. Et donc, on nous annonce pour le main event de la soirée, Velvet in Dream et Keith Lee contre eh bien, The Undisputed Era. Tout ça, ça sera en fin d'émission. Tout ce premier segment et ce booking, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette présence dominante de Keith Lee qui allait tout seul, telle une boule de bowling, dégage les trois quilles de Undisputed Era?
Ouais. Keith Lee, il est très, 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 très fort.
mais c'est bon,
moi je peux pas dire du mal de Kissy de toute façon parce que moi j'aime ce mec depuis le début, donc si tu veux voilà quoi, tous les trucs où il est impliqué, moi je trouve toujours que ça soit dans les vidéos, dans les packages vidéo, que ça soit dans le ring, que ça soit en promo, voilà, moi Kissy pour moi il a le total package, que dire de plus sur lui?
Ah bah très bien, ça me va, total package,
ok, on est d'accord.
Un air accord, tout à fait. On a un premier match ensuite féminin, suite logique de ce qui s'est passé la semaine dernière. Eh bien, c'est Shotzi Blackheart et Tegan Nox contre Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Pour un petit rappel, Tegan Nox qui est mal à partir avec Dakota Kai et Raquel Gonzalez en désavantage la semaine dernière. Eh bien, Shotzi Blackheart qui n'a pas le cœur noir, mais le cœur à aider ses autres copines face de la division, était venu aider Tegan Nox dans ce mauvais pas. Et bien donc là, un tag team match playa, donc un affrontement qui durera un peu plus de 7 minutes entre les quatre dames d'NXT, et c'est une victoire des Heels avec une présence assez forte de Raquel Gonzalez qui fera donc une grosse power bomb à un seul bras sur Blackheart pour le compte de 3 et la victoire. Donc c'est les Heels qui s'en sortent. Et ce que j'ai trouvé cool dans ce résultat, c'est que c'était assez logique. Il fallait montrer que Raquel Gonzalez, bah, elle est là et elle compte, quoi. Elle a des muscles et elle a de la puissance, donc même si les deux faces sont assez favorites en ce moment en termes de booking et sont bookées assez strong, Raquel Gonzalez, si on veut qu'elle soit un peu crédible, il faut lui donner de la victoire, et là effectivement c'est ce qui s'est passé. Est-ce que toi aussi tu partages ce point de vue, ou est-ce que tu aurais bien aimé voir Blackheart et Tegan Nox le remporter?
Ouais, non. Ouais, je sais pas trop.
Oh, ça te passionne pas tout ça?
Ouais, ça me passionne. Ça m'a pas passionné super ce tag team match. Je suis pas super affolé par la doublette Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Pour l'instant, même si je trouve que Raquel Gonzalez est impressionnante physiquement, ça par contre, on peut pas lui retirer ça. Voilà. Shotzi Blackheart, elle m'intéresse. Elle est jeune, cette nénette, non? Et Tegan Nox aussi est jeune. Donc, ces filles-là. Elle, à terme, Tegan Nox, j'aimais plutôt bien dans le début de la rivalité avec Dakota Kai. Mm-hmm. Après, ça m'a moins plu parce que c'est Dakota Kai avec qui ça passe pas, moi. Et okay. Mais voilà, écoute, c'est, voilà. Après, c'était un match. Voilà, les Heels ont gagné. Voilà, hein, les méchantes. C'est les méchantes qui ont gagné. Voilà.
Exactement. Je regarde ceci, Blackheart, elle a. Elle a 29 ans.
29 ans. Ah ouais, ouais. Quand même. J'aurais pensé qu'elle était un peu plus jeune que ça.
Ouais. Et Tegan Nox, elle a un peu moins, elle a 26.
26, elle a voilà. Tegan Nox. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Donc, très bonne information.
Exactement. C'est ça. À Catch Up, on vous donne des vraies infos.
Ouais.
du côté NXT, on a aussi un tournoi. Il n'y a pas que du côté IW, on en parlait la semaine dernière. Le tournoi pour couronner le champion intérimaire, Cruiserweight. Et donc, ce soir, on va avoir beaucoup de matchs. Au sujet de ce tournoi-là. Et le premier, c'est Drake Maverick contre Jake Atlas. Alors, Drake Maverick, il fait partie de ceux qui ont été virés. Il y a deux semaines, de la WWE, il y a une vingtaine de catcheurs qui ont été virés, notamment Drake Maverick, mais il est quand même là. C'est sa dernière chance, un dernier moment à la WWE, ces matchs. Et il y a une petite vidéo qu'il a postée sur Twitter qui nous est présentée, où il est face cam, très émotif, très triste. Face caméra, où il dira que voilà, il a appris que son contrat à WWE était terminé. Ça va être mes derniers matchs, ce tournoi. Donc, il va falloir que je gagne. J'ai pas le choix. Si je perds, tout ceci sera pour rien. J'ai le couteau sous la gorge, comme on dit. Donc, du coup, un match entre les deux, un match de 6 minutes. Où Drake Maverick dira plusieurs fois à Jake Atlas qu'il a besoin, de gagner. Mais Jake Atlas, il dira, moi aussi, j'ai besoin de ça, parce que je débute ma carrière devant moi, donc il faut que je fasse forte impression. Et c'est ce qui se passera. Cet homme a raison. Jake Atlas qui fera un DDT assez acrobatique, où il est en fait sur le poteau. Il fera une roue, un cartwheel, donc une roulade, mais en faisant la roue, les mains sur la troisième corde. Et en tombant la troisième corde, rattrapera Drake Maverick pour lui faire un DDT, un peu comme un slingshot DDT qui est habitué chez Johnny Gargano, sauf que là, il y a cette roue au préalable sur la corde, assez impressionnant d'athlétisme ce mouvement, et qui apporte la première victoire dans le tournoi à Jake Atlas, qui sera interviewé juste après ça. Et en voyant Drake Maverick qui ira accompagné en backstage après le match, et bien Jake Atlas il dira quand même qu'il se sent super mal pour Drake Maverick, parce que c'est moche qui lui arrive, mais voilà, faut que je pense à moi, faut que je pense, j'ai ma carrière à faire. Et plus tard, Maverick sera aussi interviewé encore une fois backstage, où il dira, la plupart des gens dans ce tournoi, ils n'ont affronté que leur adversaire, et moi, en plus de l'adversaire, je m'affronte moi-même. Donc c'est très dur tout ça, on a de la peine pour Maverick. Est-ce que toi aussi, tu prends pitié de ce petit Drake Maverick?
Un petit peu, quand même, quoi. Tu vois, il pourrait être mon fils. Non, quand même pas, je déconne. Mais c'est un peu triste. Moi, je suis un petit peu interloqué en fait par cette histoire-là, parce que est-ce que tout ça c'est pas un work au final? Est-ce que Drake Maverick il a été vraiment renvoyé? Est-ce que tu vois, il y a du coup pour moi il y a des espèces de dans mon cerveau là, toutes les neurones se sont pas touchées avec cette histoire-là. Et je comprends pas trop. Va falloir que j'ai besoin d'un Einstein du booking parce que j'ai des problèmes de connexion là.
Alors, il y a deux possibilités. La première, c'est qu'il a vraiment été viré, mais ils ont dit, OK, t'as
enregistré tel truc.
T'es impliqué dans le tournoi, donc du coup, on te paye encore 3 matchs. Ton contrat est terminé, mais du coup, voilà. On se sert de ça pour en faire une storyline et pour mettre un peu de l'émotion. Et parce que le public aime ce genre de storyline, quoi, où les gens ils mettent leur vie dans le ring et genre, voilà, c'est ma dernière chance, etc. Ça fait plaisir, ça fait pleurer dans les chaumières, donc du coup, ça crée du drama. Soit c'est le cas, soit effectivement, c'est un work total et que d'une manière ou d'une autre, il va réussir à récupérer un contrat derrière. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qui est la vérité. On ne saura que quand on le verra à l'écran. Je n'ai pas tellement de pronos non plus là-dessus parce que c'est trop. On ne sait pas quoi. Il n'y a pas assez de background. C'est trop, trop neuf pour avoir une intuition construite sur quelque chose. Donc voilà. Mais après, ce qui est bien, c'est que ça permet encore une fois de briser un peu le quatrième mur, de se servir d'une peut-être réalité ou du moins de réalité. Parce que autant j'imagine qu'il peut faire ça avec une personne, un catcheur, genre on annonce qu'on te vire et finalement c'est un work pour le scénario, mais ils n'ont pas fait ça avec les 20 autres.
Non, bien sûr que non.
Du coup, à moins qu'ils fassent un truc genre Nexus Reloaded, où t'as les 20 personnes qui sont fait virer, qui débarquent à un show de la WWE et qui démontent tout le monde. Mais non, je crois pas. Donc. Du coup, ouais, c'est à quel point il manipule, il joue avec nous, on ne saura pas. Mais j'aime bien quand ça touche toujours un peu à la réalité, même quand c'est des réalités un peu tristes comme des licenciements en pagaille.
Ouais.
Ça nourrit les storylines d'une petite saveur, d'un petit sel de réaliste que moi j'aime bien.
Voilà, ouais, voilà. Je comprends.
Suite à ça, on a un deuxième match pour même
tournoi. Ah ouais, après, on a un match bien sympa, ouais.
Ouais, un gros match.
Je spoil.
De plus de 11 minutes entre Kushida et Tony Nese. Hein, donc Tony Nese qui a déjà été champion. Cruiserweight qui l'a perdu sans avoir été défait, puisqu'il avait perdu dans une triple frite et il n'avait pas été impliqué dans la décision.
C'est pas lui qui avait été piné.
Exactement. Donc du coup, il dit que pour lui, dans son esprit, il est toujours champion Cruiserweight. Ok, merci Tony Nese. C'est pas comme ça que ça marche, mais si tu crois, c'est le principal. Donc un gros match, 11 minutes disputées, mais c'est la sensation japonaise qui va l'emporter avec une prise de soumission, sa Sakura Balok qu'il aura faite un peu en hauteur au niveau des cordes et suite à un gros flip aérien, les deux atterrissent au sol, et bien Kushida maintient sa Sakura Balok et Tony Nese n'a pas le choix que d'abandonner. D'ailleurs, je trouvais que ce spot était assez violent, parce qu'on a vraiment l'impression que, vu qu'il lui tord le bras et qu'il font un flip avec la gravité tombée au sol et maintenir la prise, vraiment, j'ai cru que ça pouvait être très 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 violent pour l'épaule ou le coude de Tony Nese. Bref, c'était vendu efficacement. Et donc, Kushida avance, du moins gagne le point dans ce premier match. Apparemment, donc, toi, tu as bien apprécié ce match, j'en déduis.
Ouais, carrément, ouais. Ouais, un des rares matchs dans lequel je suis pas sorti. Voilà, pour une fois, là, j'ai réussi à bien rester concentré. J'ai trouvé les deux bons entre les cordes. Et voilà, et Tony Nese, il nous aura fait un 450 quand même, splash de fort belle qualité, ouais. Ma foi. Mmh. Et un putain de Spanish Fly comme je les aime de la part de Kushida, quoi. Et comme je les aime de John Morrison aussi, et c'est une prise. Charlotte aussi chez les filles le fait très très bien, le Spanish Fly, et quand c'est bien porté, c'est une prise belle à voir et spectaculaire en même temps. Voilà.
Oui, ça pourrait d'ailleurs carrément un finisher. Hein.
D'ailleurs, il faudra regarder un petit peu dans les archives, les amis, mais je serais curieux de savoir quel catcher utilise le Spanish Fly comme finisher, parce que ça doit être assez rare. Et je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Dans l'histoire, quand même, de finir sur un Spanish Fly. Mais c'est magnifique, quand c'est bien porté. C'est une prise magnifique. Voilà, donc c'était un bon match. J'ai trouvé que c'était un bon match de catch. Tu vois, là, pour le coup, on est dans le catch pur. Et c'était un bon match de catch avec tout ce qu'il fallait et avec du stiff. Voilà. Kushida est vraiment un type que moi, je découvre finalement, hein, parce que je ne l'ai vu que très, très peu, à part un petit peu à la Ring of Honor. Voilà, donc si tu veux, moi je le découvre depuis qu'il est à NXT et j'aime beaucoup le japonais.
Ouais, c'est vrai que là du coup on avait un beau match de cruiserweight, mais en même temps de la puissance, hein, parce que Tony Nese il est très 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 baraqué et puissant pour un cruiserweight. Kushida, l'un des meilleurs juniors qui sont les cruiserweights au Japon, à la NJPW, donc ouais, c'est bien ce tournoi, il est notamment fait, je pense, l'opportunité pour que Kushida démontre un peu plus son talent.
Ouais, ouais.
C'est bien d'avoir des affrontements comme celui-ci.
Je pense que c'est clairement calibré pour un catcheur de ce style-là, quoi. Donc Kushida va aller loin dans ce format-là de tournoi, quoi.
Oui, d'ailleurs, Byron au commentaire.
Rappelle-moi, le règlement, c'est quoi? C'est les deux premiers qui...
C'est ça, il y a...
Les deux premiers qui se qualifient.
Ouais, il y a deux poules.
Il y a deux poules, et c'est les deux premiers de chaque poule qui sortent pour des demi. C'est le final direct.
C'est le final direct. Le vainqueur en mode championnat de chaque poule affronte le vainqueur de l'autre.
D'accord, ok.
Voilà. Voilà. On passe ensuite backstage
avec. J'aime bien ce format.
Petit écho du G1. Hein,
ouais, bien sûr, bien sûr. Japon. On n'est pas dupes.
Eh non, on sait.
On sait, nous. On est les vrais.
Nous sachons. Ceux qui sont des vrais aussi, qui sont des vrais étalons, c'est Matt Riddle, le champion
team,
et son partenaire de substitution, intérimaire lui aussi, hein, beaucoup d'intérim, Timothy Thatcher. Donc ouais. ils sont interviewés backstage par Mackenzie Mitchell. Voilà, ils se demandent comment ça se passe, cette tag team. Voilà, il dit que c'est cool, et on a surtout Matt Riddle qui blague un petit peu, qui dit que voilà, Timothy Thatcher c'est un bel homme, et quand il regarde dans ses yeux bleus, il voit les yeux bleus de Pete Dunne, et là Timothy Thatcher lui dit mais mec, j'ai les yeux marrons, on s'en fout de ça, c'est pas grave, je vais montrer la semaine prochaine à quel point t'es un bel homme. Donc, fais-moi confiance. Et on a un Timothy Thatcher qui ne sait pas trop ce que le original bro a en tête. Eh bien, moi non plus, je ne sais pas ce qu'il a en tête. Je ne sais pas si toi, c'était un petit indice ou une inspiration.
Oh non, même pas vraiment. Je t'avoue, j'ai suivi ça un peu d'un œil. Voilà. Bon, c'est bien, Timothy Thatcher, il est quand même, j'espère qu'il est quand même champion tag team, qu'il bénéficie de la Freebird Rules.
A priori, oui.
A priori, oui. Ouais, c'est bien, ouais. Ça, c'est bien.
Oui. Donc, pas très inspiré par ça. Très
non,
bien.
Non, je suis pas super, non.
Ah ouais, moi non plus.
Pour l'instant, la tag team division masculine, pour l'instant, à NXT, trouveront Ron un peu, quoi. Donc, mais c'est lié à pas mal de choses, quoi.
Est-ce que la division, à défaut de la tag team, est-ce que la division mixte à NXT
est un peu plus... elle peut être susceptible de plus m'intéresser, ouais.
On a d'un côté une vidéo package...
De toute façon, j'aime bien quand il y a les filles, moi.
Ouais, je suis d'accord. Une vidéo package de Kayden Cross et de Scarlett Bordeaux qui nous disent, en gros, via la voix de Scarlett, qu'ils nous ont envoyé suffisamment d'avertissements. Le jour de l'apocalypse, en gros, arrive et vous ne pourrez rien faire pour y échapper. On revoit des images de l'agression de la semaine dernière de Tommaso Ciampa. Donc, ils ne sont pas encore là, les deux, mais ils arrivent. Hein, voilà. Bientôt, soon. Et encore du mix, on a le couple wrestling, hein, donc Johnny Gargano et Candice LeRae, qui sont chez eux en train de dîner. Un segment assez notable, on va prendre un peu de temps pour en discuter, parce qu'il y a des choses à dire. Déjà, premier truc, ils sont dans leur maison, ils sont en train de dîner. Candice qui apporte le dîner, ça a l'air fort bon, elle a préparé des trucs, ça a l'air cool. Et on voit, première chose, c'est que sur la table, sous une cloche en verre, il y a la coquille de protection qu'elle avait refilé à Johnny lors du match contre Tommaso Ciampa, qui l'a protégé du coup de pied dans les roustons. Donc du coup, voilà, déjà la coquille de protection est sur la table dans une cloche en verre comme un souvenir, un trophée. Première chose.
Deuxième... Ah, dans le catch, qu'est-ce que tu peux voir un truc comme ça.
N'importe quoi. Deuxième chose, on voit que Candice, elle a subi un makeover, elle a changé de look, fini les cheveux blonds, elle a les cheveux argent un peu mauve, beaucoup plus edgy, comme on dit, avec un maquillage beaucoup plus sombre, elle a les lèvres vert-noir, donc elle a un look beaucoup plus dark que c'est plus du tout la Candice Wrestling, petite blonde californienne telle qu'on la connaissait. Non, ça y est, elle assume le côté obscur. Et donc, on va avoir une longue vidéo promo entre les deux où chacun, ils vont parler entre eux, mais ils vont parler aussi face caméra en disant, voilà, je suis passé par tout ça, moi, Johnny Gargano. Dès qu'il y avait un truc, on me demandait, hey, Johnny, est-ce que tu peux faire aller dans telle émission, faire la promo d'NXT, pas de problème, j'y vais. Hey, Johnny, est-ce que tu veux bien signer un autographe pour un fan, pas de problème, j'y vais. Hey, Johnny, est-ce que tu veux tourner une petite vidéo pour souhaiter anniversaire à un fan, machin, ouais, pas de problème, j'y vais. Et puis, d'un coup, la caméra devient, alors c'est en couleur, ça devient du noir et blanc, avec un effet un petit peu distorsion, et là, il commence à trash-talker tout ça en disant que c'est de la merde, que en gros, on a beau être une bonne pomme, tout ce qui se passe, eh bien, au final, c'est qu'on se fait avoir, c'est n'importe quoi, c'est fini ça, j'ai donné mon temps d'être Johnny Nice Guy, maintenant je prends mon destin en main. Et Candice LeRae va faire un peu la même chose, hein. Elle va aussi parler, elle, de qu'est-ce qui s'est passé dans sa carrière. Elle a toujours aidé toutes ses copines dans le roster. À chaque fois, elle a été là pour elle, pour les autres, pour les aider. Et à chaque fois, on l'a trahi. Et donc, pareil, d'un coup, la caméra passe en noir et blanc. C'est très dark. Et elle dit, voilà, ça, c'est terminé. Maintenant, je pense à ma gueule. Et au final, les deux disent qu'ils vont régner sur NXT. Quoi de mieux, Johnny Gargano en champion NXT et Candice en championne NXT. Ce seront effectivement le meilleur jour après leur mariage. Donc voilà pour cette longue vidéo du couple Gargano qui décide de vraiment déménager du côté obscur de la force. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon cher tonton ?
C'était étrange, c'était space, et ils ont du mal à vivre le confinement, les Gargano, apparemment.
Alors, pas du tout.
Les séquelles psychologiques vont être importantes. Comme nous tous, d'ailleurs, hein, parce que... Mais oui, clairement, je sais pas, j'ai trouvé ça pas mal foutu. Gargano, il a un ton, par contre, quand il parle, moi, qui m'agace un peu par moment.
Oui, mais du coup, ça marche bien avec son personnage du moment.
Exactly. Voilà,
parce que t'es censé être agacé, énervé par
mais lui. Ouais, donc, et t'es totalement agacé. Donc là, voilà, du coup, ça se rajoute et t'es totalement agacé. Moi, on a notre ami Papy sur Discord qui le déteste cordialement. Et moi, je suis pas loin de penser comme lui quand Gargano est en mode face. Par contre, quand il est en mode heal, je l'aime beaucoup. Mais quand il est en mode face, je rejoins Papy, il est insupportable. Mm-hmm. Écoute, voilà, quand même, ça a balancé, hein, ça a balancé sur Ciampa. Il dit carrément que c'était un enfoiré, quoi. Elle dit qu'elle est détestée alors que c'est la grande sœur du vestiaire. Voilà, quoi. Qu'elle met tout le monde en lumière, mais it's over! It's over!
Over!
Et voilà, elle s'est mise avec un peu de maquillage gothique, tout ça, quoi, machin. Voilà, on se la joue. Voilà, on est en mode pétage de câble en confinement.
Je trouve que c'est justement, j'ai bien aimé le segment et ce qui a été dit. Globalement, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, voilà, le détail qui m'a fait un peu grincer des dents, c'est le côté un peu trop extrême du relooking là soudain de.
Ça
a manqué un peu de subtilité, quoi. J'ai rien du tout contre le look dark et gothique, au contraire, c'est un look que j'aime. Franchement, oh là là, non.
On n'y échappe jamais. Mon pauvre amiral. On n'y échappe jamais, quoi. De toute façon, c'est toujours comme ça. Dès qu'ils veulent incorporer un personnage machin et que tout d'un coup il doit passer du côté obscur, et ça y est, il faut lui balancer un maquillage à la con.
Ou une
couleur de cheveux, c'est souvent réservé aux femmes. On leur change leur couleur de cheveux, on leur met un maquillage gothique ou je ne sais quoi, ou un peu mode horreur.
C'était un peu mauvais. Alors que, en termes de bon goût absolu, et qui a un peu la même chose, hein, quelqu'un qui était face pendant longtemps et qui a viré heel, qui a bien sûr eu un look un peu plus dark, mais qui est resté dans le bon goût et qui nous le démontre encore ce soir, c'est notre fan, notre chouchou absolu à toi et moi, c'est Yoshirai, fait une vidéo pro.
Mais oui, oh putain.
Génialissime, où du coup, forcément, Yoshirai, elle a remporté le contender pour le match contre Charlotte, hein, et donc une vidéo qui est courte, mais super efficace. Où elle parle de son match, on voit des images, etc., tout ça, puis elle finit très efficace, hein. Elle dira avec son accent japonais « Charlotte, I bow to no one !»« Charlotte, je ne m'agenouille devant personne. » Et voilà, clairement, l'exemple de quelqu'un qui a vrillé du côté obscur, mais qui a gardé quand même une certaine subtilité et qui n'est pas devenu un peu trop clownesque, que je reproche en maquillage ou le packaging de Candice LeRae, qui arrive à rester super crédible et intéressante. Et vraiment, je trouve que cette vidéo était juste géniale, quoi. Courte, efficace, tout ce qu'il faut.
Arigato, Io. C'était bon. Ah, écoute, ça, c'était trop court. Tout simplement, j'ai envie de dire, c'était trop court. Donc, j'ai détesté.
Ouais, moi, j'ai hâte de le voir ce match. Hein. Charlotte, carrément.
Je suis hyper par ce match.
J'ai au moins un quart d'heure dans le ring.
Ah, mais ouais, 20 minutes, mais merde, déconne pas, 20 minutes, quoi.
Ah, mais moi, je suis preneur, en plus, mais au minimum un quart d'heure, pas en dessous d'un quart d'heure, quoi, pas 10 minutes.
20 minutes avec des échelles, des tables, des chaises, avec le Titan Tron, avec Vince McMahon, en scumbag. Allons-y, quoi. Mmh. Ah putain, ouais, moi je suis hypé. Hein. Alors là, ouais, vous avez entendu, vous connaissez mon avis. Voilà, quoi. Yoshirai, you are on the top.
Eh oui, elle est au top. Mais bon, avant Yoshirai, c'est bien Mia Yim, hein, que Charlotte a dit qu'elle voulait affronter. Et justement, on retrouve Mia Yim dans un match contre Jesse Kamea.
Faute de grive, on mange des merles.
Voilà, rien à voir avec Dragon Ball Z, hein, c'est pas un Kamehameha, c'est juste le nom de famille de la nana. Jessie, qu'on avait déjà vu 2-3 fois faire du Enhancement Talent, hein, c'est exactement ce qu'elle vient faire ce soir, un match assez court de 3 minutes contre Mia Yim, pour montrer que Mia Yim, elle en a dans le STO et dans le coup de genou, dans la mâchoire. Elle remportera le match de façon assez évidente et assez courte. Et Charlotte Flair qui arrivera, du coup, après le match. Toute pimpante et qui dira à Mia Yim que elle est très contente d'avoir ce match contre elle n'oubliera jamais son premier match à NXT qui était contre Mia Yim, et Charlotte a toujours pensé que Mia Yim était une bonne good end, comme ils disent, et dans le cash, dire que c'est un good end, c'est ce qu'on appelle un complifion. Un complifion, c'est un compliment qui est un fion à la fois. Je te fais un compliment, mais c'est quand même un taquet dans la tête, quoi. C'est pour dire que t'es un bon second couteau, quoi. C'est voilà, tu seras jamais une top star, mais t'es une bonne mid-cardeuse, quoi, en gros.
Tu rappelles que c'est toi la top cardeuse, quoi.
Exactement. Donc du coup, Miyajim au début, elle était contente, hein, genre de faire la Charlotte et tout. Puis à la fin, elle tire quand même un peu la gueule. Elle fait attends, qu'est-ce qu'elle me dit là ? Donc voilà, on continue avec le personnage très imbu d'elle-même de Charlotte, et Miyajim qui va certainement être remonté dans leur match la semaine prochaine, ce qu'on nous annonce.
Ouais, la semaine prochaine, ouais. Mmh. Et bah écoute, voilà, on est là dans l'exemple typique de la jobeuse que la top cardeuse va mettre en valeur la semaine prochaine en l'occurrence. Mmh. Et moi je trouve qu'on est là-dedans, quoi. Bien évidemment, Charlotte Flair va battre Miyahim, mais l'important n'est pas là. L'important c'est que Charlotte Flair, elle grimpe les échelons avant d'affronter Yoshirai. Elle va péter quelques bouches au passage, dont Miyahim est la première de la série. Mais tu vas voir, voilà, on sera typiquement dans le match avec un jobber, mais elle n'aura pas Miyahim, elle n'aura pas 2 minutes, elle aura 7-8 minutes. Elle aura un vrai match. Et c'est bien, c'est tant mieux pour Mia. Mm-hmm. J'aime bien, j'ai une certaine affection pour elle, j'aime bien son environnement hip-hop. Voilà, ouais, j'aime bien son package. Je trouve que c'est pas une casse, c'est une mid-cardeuse. Et elle me va tout à fait, quoi.
Elle va très bien. Une autre compétitrice, hein, beaucoup de focus sur la division féminine qu'on sait très vaste à NXT. C'est un segment tourné en belle journée dans une très belle piscine où on a donc du coup Robert Stone, hein, de la Robert Stone Brand, qui est allongé, qui fait une petite interview à la caméra pendant que Chelsea Green se fait photographier. Donc voilà. Il dira que Chelsea Green a tout le package réuni, elle rejoindra dans les transats. Et donc voilà, donc ils disent qu'en gros, quel est le visage de la division. Enfin, ça, c'est les seuls à le croire, hein, et à le penser, mais ils sont encore dans leur espèce de bulle de superstition et d'illusion, en croyant que c'est les meilleurs au monde. Même si bon, bah, Chelsea Green, elle n'est pas dans la title picture du tout. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien fait, c'est bien filmé, bonne qualité vidéo, la piscine était fabuleuse, etc. Mais après, je ne suis pas forcément très, très réceptif à ce délire de très marketing, superstar Instagram, etc. J'ai connu Chelsea Green dans son ancienne incarnation à la TNA. Où elle était plus en mode mariée, complètement psychotique, avec du sang, ouais. un peu taré et compagnie. J'ai trouvé un peu plus intéressante.
Moi aussi, je préférais la Chelsea Green de la TNA.
Ouais,
la Chelsea Green de NXT ne m'intéresse pas, en fait.
Disons qu'elle me rappelle un peu trop le délire diva, en fait. Total diva de la WWE, des heures sombres féminines de la WWE, je ne sais pas.
Ouais, il y a de ça aussi, ouais. Ouais. Non, mais moi, j'accroche pas trop. Hein. Donc, Chelsea Green, même dans le ring, j'accroche pas trop. Donc, pour moi, elle est moyenne à moyenne moins, quoi. Voilà, quoi. Donc si tu veux, bah, pour le coup, ce segment m'a pas passionné, quoi.
Bah, écoute, passons.
Le seul truc, c'est qu'elle s'attaque à Rhea Ripley à la fin de la promo. Rhea Ripley, je pense qu'elle va la dévorer tout cru, quoi. Avec une pincée de sel et puis un petit peu de romarin bio.
Rien que ça. Allez, du bio, c'est important. Et local. Le romarin local.
Et local. Et même d'ailleurs, il peut ne pas être bio. Il peut ne pas être bio, mais s'il est local, c'est bien. C'est bien. Après, il faut juste vous renseigner quel genre de culture possède la personne qui vous vend l'épice ou le fruit ou légume.
Mais en parlant
d'épices. Le bio n'est pas obligatoire à 100%, quoi.
En parlant d'épices et donc du coup de mexicaine, on en parlait au début de Luchadore. C'est le moment de début à NXT de El Hero del Fantasma, le fils du fantasme.
Oui.
Dans le cas du tournoi, donc Cruiserweight contre Jack Gallagher, hein, le gentleman sautillant qui du coup est repackagé en plus, beaucoup plus agressif, avec un gros tatouage sur le torse pour montrer à quel point il peut encaisser de la douleur. Donc voilà, Jack Gallagher est plus du tout guignol avec ses coups de parapluie et son côté Mary Poppins. Donc un match de 11 minutes durant lequel Gallagher de multiples fois essaiera d'arracher, d'enlever le masque de El Hero del Fantasma. Et comme tout bon fan de Luchador sait, le masque d'un Luchador, c'est son identité et c'est la pire offense qu'on puisse
y faire. Et puis ça met en colère.
Ah ouais.
Ça donne envie de se bastonner.
à la baston du mercredi.
Et oui.
Donc Gallagher, il n'arrêtera pas d'essayer de faire ça, mais l'Héro des Fantasmas sera plus fort et avec un gros Samoan Driver, gagnera donc son premier match du tournoi. Il sera interviewé un peu plus tard sur le parking, hein, toujours son t-shirt et en masque, évidemment, en parlant de sa victoire, quand d'un coup débarque la camionnette du Dark Order,
mais
qui
ouais.
vient, vu que c'est un Mexicain,
ouais.
l'enlever. Sauf que l'Héro des Fantasmas, contrairement à Joaquin Wilde et contrairement à Raúl Mendoza, c'est pas un loser, c'est un winner, il gagne ses matchs, et bien il mettra en déroute des agresseurs qui s'en iront la queue entre les jambes.
Et ouais,
et oui.
le Dark Order a foiré son coup.
Mais tu sais, du coup, c'est pas le Dark Order.
Ah.
Parce
ah
que le Dark Order ne
une
recrute
révélation,
que...
une révélation.
Le Dark Order ne recrute que les perdants.
Ah. Après,
et le roi des fantasmas, il a gagné.
Mais
donc
voilà.
Ça ne tient plus, ça ne tient plus, c'est plus le Dark Order.
L'Héro del Fantasma, il a résisté à l'enlèvement du Dark Order qui n'est
exactement.
Pas le Dark Order.
Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
putain,
gros,
qu'est-ce que
gros fan de Luchador.
Ah ouais, 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 mais puis en plus, gros fan de ce catcheur-là en particulier. Donc, alors là, mes amis, la semaine dernière, j'en ai parlé un tout petit peu, juste une présentation très rapide, mais là, je vais profiter qu'il a eu du temps d'antenne, donc moi, je vais prendre du temps d'antenne sur El Hijo del Fantasma, Jorge Luis Alcántara Bori. Si, les amis, Mexicano d'Acapulco, 35 ans, il a cet ami. Hein, il est pas super grand, hein, il fait 1m80, mais par contre, il fait 90-92 kilos. Quoi.
Ah ouais, c'est d'ailleurs, un,
il a
c'est
été
un
annoncé,
gros bébé. Pour
il, a été annoncé, il a été annoncé à 218 pounds, hein, ou 217 pounds.
Ouais.
Donc, il est au-dessus de la catégorie cruiserweight, normalement.
Ouais. Il est pas tout
alors,
fait,
écoutez,
hein.
J'adore ce catcheur. J'adore ce catcheur. Il a commencé... au milieu des années 2000, c'est un catcheur mexicain de seconde génération qui a été à la CMLL quoi, et qui a été champion du monde trios avec la mascara. Ah là 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 là. Et il a été, malgré tout, il a été champion cruiserweight déjà, puisqu'il a été champion du monde poids moyen de la CMLL. Voilà. Et il a bossé à la AAA aussi. Enfin, il a bossé dans tout le milieu. Il aura même fait un pacte entre 2017 et 2018, hein, s'il y en a qui se souviennent.
Ah, ok.
Et de 2014 à 2019, bah, c'était le personnage King Cuerno de la Lucha Underground. Et voilà. Alors, moi, je le connaissais déjà d'avant, mais je le connaissais sous son appellation. Voilà. Donc là, il est arrivé en King Cuerno. Il avait un cosplay phénoménal à la Lucha Underground. Et j'adore ce catcher, quoi. Et là, voilà. Et Jack Gallagher était un adversaire parfait. Voilà. Donc c'était super bien. Vraiment une opposition de style, là. Angleterre versus Mexique. Voilà, quoi. Moi, j'étais. Mais alors là, voilà. Encore un match à NXT dans lequel j'étais dedans après le Kushida Tony Nies. Voilà, j'étais dans ce match, quoi. Voilà, j'y étais. Parce que j'étais tellement focus. Sur Hero del Fantasma et de voir Jack Gallagher faire une belle perf derrière, en plus j'étais content quoi, d'avoir une belle alchimie entre les deux quoi. Et voilà, bah écoutez, franchement pour moi ceci n'est pas une prédiction, ceci est un spoiler. S'il déconne pas avec El Hero del Fantasma, il va aller haut, ce garçon, il va aller haut, croyez-moi, c'est un putain d'enfoiré de catcheur de Mexicain. Voilà, un luchador, mais un luchador qui est costaud, qui envoie de la patate, qui peut être hyper stiff. Allez voir un peu à la Lucha Underground. Allez voir d'ailleurs son titre de champion du monde des poids moyens de la CMLL. Vous le trouverez sur YouTube, ça. Voilà, c'est un catcheur qui a, pour moi, le total package, qui va avoir le problème éternel des Latinos, qui est, mon cher amiral...
Se faire enlever par le Dark Order. Non.
Non, un autre.
Le micro.
Le mic. Et ouais, pécho le mic pour El Hijo del Fantasma. Est-ce que ça va pas être le point noir qui va le fracasser à la WWE? Mais sinon, il a le total package. Ce suicide dive qui nous sort sur le Jack Gallagher.
Ouais.
Et comment le Jack Gallagher, il le sale trop bien, Jack Gallagher d'ailleurs. Quoi. Parce que Jack Gallagher, j'ai eu peur pour sa nuque quoi, quand il est tombé quoi. Ah putain, c'était ouais. Non bah voilà, là je viens de vous dire tout le bien que je pense de El Hijo del Fantasma. Et voilà, le plaisir que j'ai eu à le voir ce soir.
Eh ben, très bien, content que tu sois ravi de son arrivée à NXT.
Ouais, ouais.
Il est temps d'arriver au main event of the evening, donc un match tag team playa entre Velveteen Dream et Keith Lee contre Undisputed Era, qui sera représenté par Adam Cole et Roderick Strong. Bobby Fish, bien sûr, qui sera pas loin dans le parage, bien sûr, pour tricher comme les villes qui sont. Et très rapidement, ce match va tel un train se faire dérailler de sa course, puisque il y aura de la confusion, l'intervention de Bobby Fish qui se fera virer très rapidement des abords de ring par l'arbitre. Et dans ce marasme, qui c'est qui en profite pour pointer le bout de son nez, sortir sa matraque télescopique et donner deux violents coups en pleine gorge à Kisly? Eh bien, c'est Damien Priest.
Yeah.
Qui veut vivre pour toujours et qui, du coup, ben...
Ton jumeau vocal.
Mon jumeau vocal, tout à fait. Et du coup, Kisly, qui n'est plus apte à catcher, parce qu'après deux coups de matraque télescopique dans la gorge, autant vous dire que dans la trachée, vous ne pouvez pas catcher, quoi. Donc, aussi sans limite qu'est Kisly, eh bien, il sera raccompagné à l'extérieur, se faire soigner. Donc, c'est un handicap match qui se déroule avec Velveteen Dream seul pour affronter Adam Cole et Roderick Strong. Donc, il essaie de maintenir le bateau à flot, mais il est forcément victime du nombre. Quand tout d'un coup, on s'aperçoit dans le fond qu'une présence lugubre observe tout ça, tel un peu un stalker, comme la semaine dernière, eh bien, c'est Dexter Lumis. Qui, comme ouais. La semaine dernière, regarde le main event tag team et, à un moment donné, ouais, voyant les difficultés de Velveteen Dream, commence à arriver près du ring et tend la main à Dream pour qu'il lui fasse un tag. Et c'est ce qu'il va faire. Et Lumis est officiellement dans le match.
Mais donc, ouais.
On revient à un tag team match. Et du coup, forcément, Disputé Dara qui est surpris de ce qui se passe. Ça va causer beaucoup de confusion. Dexter Lumis qui a une séquence plutôt impactante, hein, et bien vendue avec un spinebuster assez monstrueux. Il y a Bobby Fish même qui revient pour aider ses potes, même s'il a été viré plutôt du ringside. Et du coup, Dexter Lumis va faire un move high flyer à l'extérieur pour tout simplement se débarrasser de Roderick Strong et Bobby Fish à la fois. Il ne reste plus dans le ring que Adam Cole et le Velveteen Dream qui fera son Purple Rainmaker sur Cole pour la victoire. Donc ça y est, Velveteen Dream, après des semaines et des semaines de poursuite d'Adam Cole, arrive enfin à le faire le tomber sur lui dans un ring. Dexter Lumis qui continuera à regarder le Velveteen Dream avec son regard bleu glacial flippant. Velveteen Dream qui sera content de ce qui s'est passé, mais qui ne saura pas trop quoi en faire de tout ça. Est-ce que toi, tu sais quoi en faire? Est-ce que tu comprends quelle est la motivation de Dexter Lumis dans tout ça entre cette semaine et la semaine dernière?
Ah, je sais pas, mais par contre, il me plaît de semaine en semaine, le Dexter. Je trouve qu'il monte en puissance auprès de moi, en tout cas, quoi, parce que je le trouve de meilleur de mercredi en mercredi.
Dans tous les cas, c'est sûr qu'il gagne une tonne d'antenne rapidement et ouais. Dans des bons spots. Hein.
Et ça m'a pas dérangé qu'il se mette du côté du face et que. Parce que. Pour moi, c'est pas un face turn ou un mini face turn ou je sais pas quoi, tu vois. Il est mec, il est à part, il a un truc à part et il va faire des trucs bizarres comme ça. Il va se mêler des fois à des heels, il va des fois quand il va avoir besoin, il se mêlera à des faces. C'est ce qu'il a fait avec Velveteen Dream. J'ai trouvé que c'était très bien réfléchi comment éliminer Kisly du match. Voilà. Ouais. Ça m'a pas dérangé que Kisly sorte, tu vois, alors que j'ai dit précédemment tout à l'heure ce que je pensais, tout le bien que je pensais de Kisly.
Oui, sachant qu'on l'a pas dit, mais il y avait une vidéo plutôt d'interview d'Evan Prise dans l'émission qui confirme toujours des vérités à venir voler la ceinture de Kisly. Voilà.
Ouais, ça c'est très. Ça, je veux voir ça, oui.
Tout à fait.
Oui,
on continue de construire cette rivalité. Donc,
j'aime Damien Prise aussi.
Alors, moi, j'ai trois possibilités pour Dexter Lumis. Puisque donc on l'a vu regarder le main event la semaine dernière et celui-ci, soit possibilité 1, Dexter Lumis veut le main event parce que forcément c'est le main event, il y a de la lumière, c'est pour ça qu'il était là la semaine dernière, qu'il veut faire partie du main event, première possibilité. Deuxième possibilité, Dexter Lumis veut être un tag team catcher, puisque la semaine dernière c'était un match en tag team qu'il a regardé et là il vient s'intégrer lui-même dans une tag team. Ou troisième possibilité, Dexter Lumis à quelque chose contre The Undisputed Era, puisque cette semaine, il vient prêter renfort contre Undisputed Era, et la semaine dernière, dans le main event, était déjà impliqué Undisputed Era. Donc, lequel des trois, je ne sais pas, peuple de Kachov, comme tu dirais, Chris, mais il y a forcément une motivation quelque part. Je pense que c'est une des trois.
Ouais, écoute, moi, je pense que t'es pas loin de la vérité.
Voilà. Ah, très bien.
Voilà, voilà.
Je prends le compliment et c'est sur ça quand nos deux choses se terminent. Donc, mon cher tonton, cette semaine, à qui va ton vote? Quel était le meilleur show qui a gagné la baston du mercredi?
Eh ben écoute, pour le coup, c'était une vraie bagarre. Et là, on a eu deux shows assez compliqués à départager. Je serais presque dans l'idée de mettre un match nul, mais je vais pas mettre un match nul. Je vais prendre une décision ferme et définitive. Alors, eh ben, je vais donner mon point. Je vais donner la victoire par TKO à NXT cette semaine. Okay. Pourquoi ? Parce que il y a eu au moins trois matchs du NXT où j'ai été dedans, où j'ai un peu réussi à oublier que le public n'était pas là. Il y avait mon enthousiasme pour les débuts d'El Hierro del Fantasma. Je kiffe Dexter Lumis de plus en plus. J'ai trouvé Charlotte Flair, le truc avec Mia Yim, c'était bien. Les Gargano, j'ai trouvé ça chelou et bien. L'arrivée de Karrion Kross, je suis content. Kushida Tonini, c'était très bon. Voilà, peut-être la faiblesse, ça a été un peu l'opener avec le Blake Drake, pardon, Maverick et Jack Atlas, le match de le tag team féminin et un opener un peu, ouais, le truc avec le Dream et tout ça, moi ça sent plus quoi. Mais vraiment, j'ai été impliqué. Alors qu'à la IW, j'ai trouvé que tout était de valeur mid-card. J'ai été déçu par le main event parce que justement, c'était pour moi un match de mid-card. J'étais déçu d'avoir Lance Archer.
La semaine prochaine.
Et globalement, j'ai pas réussi à me mettre dans les matchs à la IW. Okay. Même si j'ai trouvé des qualités. Hein. Vous allez écouter la review, vous verrez que j'ai trouvé des qualités au show. Hein. Et pour moi, il est vraiment dans la baston du mercredi parce que ça reste hyper serré entre les deux. J'ai bien failli mettre un draw. Mais je vais donner mon point à NXT.
Bah écoute, je suis dans le même cas que toi et pareil, je vais donner
aussi. On se consulte pas avant, les amis, on vous promet, on se consulte pas.
On se dit pas qui on vote. Et effectivement, c'est pareil, j'ai longtemps hésité parce que les deux shows, il y avait plein de segments, plein de matchs, c'était assez full pack ces deux épisodes. Mais globalement, pareil, je dois dire que il y avait un peu plus de choses de meilleure qualité à NXT dans les cordes et que AEW qui était un peu plus fluctuant sur la qualité des trucs. Voilà, j'ai trouvé qu'NXT s'en sortait un peu mieux pour différentes choses parce que ça me laisse un peu plus de questionnement aussi sur la semaine prochaine. Voilà, par rapport à Dexter Lumis, par rapport à ce que prévoit Matt Riddle avec son nouveau tag-team partner, ce qui est arrivé à Finn Balor. Bref, je me pose plus de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer à NXT que à AEW? Donc voilà, même si je trouvais que vraiment les shows étaient quasiment de qualité équivalente.
Voilà, après, moi, je fais un dernier petit reproche à la AEW aussi, c'est que les femmes ont été présentes durant le show, mais il n'y a pas eu seul match féminin à la AEW. Et ça, moi, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas tout à fait normal. Donc, il devrait y avoir un temps donné aux femmes en termes de catch, même si leur division est pas bonne. Et c'est justement pour ça qu'il faut les faire bosser et qu'il faut les faire passer à la télé. C'est pas en faisant que des matchs exclusivement testostéronés que avec moi, ils gagneront quelque chose. Moi, je veux voir les femmes dans le ring. Donc,
très bien.
Donc, là, tu vois, voilà. Que cela soit dit.
Va te remater le pay-per-view Evolution, c'est voir des femmes dans le ring. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, c'est sur ces bonnes notes, mes chers.
Bah non, et
catch-up.
Si, t'as raison. Le ranking,
vas-y, je t'en prie.
Ah, c'est moi, du coup, qui donne. Et bah, du coup, ça nous donne un 3 pour la IW, 2 pour NXT dorénavant et un match nul.
Bah, écoutez, c'est toujours serré. Hein. Il faudra écouter la prochaine baston de mercredi pour voir si NXT égalise ou est-ce que IW prend un peu plus d'avance. Pour savoir et pour nous écouter, c'est très simple. Abonnez-vous sur YouTube, sur notre chaîne Catch Up. Vous mettez un like, vous mettez un commentaire sur la vidéo. Si vous trouvez que cette review, cette baston mercredi était cool, faites-nous le savoir. C'est super important pour nous. On kiffe. Donc abonnez-vous. Comme ça, vous saurez quand vont sortir nos prochaines reviews d'Euro, de SmackDown, des pay-per-view, les You Talk Too Much aussi de Tonton Chris. On est aussi bien sûr présents sur la planète podcast, sur Ocha, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Spotify, j'en passe des meilleurs, donc voilà, vous avez tout ça. Rejoignez-nous aussi sur Discord, on a un gros Discord catch-up avec donc du coup bah, plein de gens qui discutent de la passion de ce sport fabuleux qu'on kiffe. D'ici la prochaine fois, Chris, encore merci, c'est toujours un plaisir de faire ces reviews bastonesques en ta compagnie.
Yes, toujours pareil, Amiral. Au garde à vous, devant le marin.
Eh ouais, et écoutez, ben, jusqu'à la prochaine fois. Là, on est vendredi quand on enregistre. On vous souhaite un très bon week-end plein de catch. Salut.
Salut l'amiral. Salut peuple de catcheurs. Bon, allez, amiral, tu sais ce qu'on va faire là? On va aller faire
Ouais,
un TikTok. Voilà.
Allez.
Un TikTok. Hein, où sont les masques challenge? Voilà. Et
tu vas voir. Challenge.
Allez, on s'inscrit sur TikTok. On est des fous. On est comme ça. Catch up!